Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
17h58 sur RMC. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Rotten Régal. Comme tous les vendredis, on a passé une semaine grandiose hein, pour le football français avec cette victoire de Paris. La Ligue des Champions, c'est toujours très excitant. On a bien bossé, surtout. Mon adjoint, Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme. Salut.
T'es vu brillant à la télé.
Oui, oui, bah t'étais là aussi. Hein.
Oui, bah.
J'ai l'impression d'avoir passé la semaine avec vous deux.
C'est vrai.
Jean-Michel était à la radio toute la semaine.
Ah, toute la semaine.
Quand je le vois à la télé pendant le match du PSG, j'ai l'impression que t'es avec moi. Donc,
c'est vrai, on a fait.
T'étais dans le salon de tous les Français, Jérôme.
C'est vrai. Voilà. Exactement. Bah, bien sûr, tu l'as annoncé. Jean-Michel Larquet, notre maître à tous. Salut Jean-Mi.
Quelle belle semaine, hein.
Ça va?
Ah, oui, ça va très bien.
Bon.
Ça va très bien, on a gagné.
T'es pas trop fatigué, t'as fait beaucoup d'antennes apparemment.
On a gagné.
On a gagné. Bah, gagné. Le football français a gagné, ouais.
Très bien. Bon,
c'est oui.
Voilà, quand Captain Larquet est supporter du PSG comme ça, là, ça me fait bizarre.
Tu t'es enflammé, hein. Tu t'es enflammé.
Bah, je suis un peu enflammé. Ça, et puis en plus, je t'ai.
Pourtant, il faisait froid, hein.
Ah, il faisait
pourtant,
très froid, je te confirme. Bon, t'as dû les vivre ces soirées-là. Et plus d'une.
Mais dans les conditions de l'époque de TF1, ils avaient trois chauffages chacun.
Oui, bah, c'est sûr que là.
Pas le froid.
Non, nous, on n'a rien demandé en plus.
Bien sûr.
Nous à la prod, on n'a rien demandé.
Ils étaient dans la loge.
Ouais, du moins à la loge avec un gros courant d'air, je peux te dire.
Ouais. Allez, on y va pour Rotten Régal, donc pour finir cette semaine de Ligue des Champions et aussi pour lancer la suivante, puisqu'on est juste entre l'aller et le retour. PSG Bayern, c'est mardi prochain, le débat dans une seconde. On va aussi revenir sur la qualification compliquée en Coupe de France pour Lyon. Et même sur la période difficile que traverse le club. Rudy Garcia a-t-il perdu la main sur son groupe? Ce sera le débat à 18h30 dans l'élève contre le maître. À 19h, le multiplex Ligue 1, la course au titre avec une nouvelle arme pour l'AS Monaco, on en parlera tout à l'heure. L'absence de Jonathan David peut-elle coûter le titre à Lille? Faut-il prolonger Der Zakarian à Montpellier? On a des infos à vous donner. Et que faut-il faire des joueurs prêtés à Marseille? Voilà nos débats avec le correspondant en région, ce sera tout à l'heure. Et puis le jeu, ça continue sur RMC, on vous envoie la finale de la Ligue des Champions fin mai à Istanbul. Que le stade soit rempli ou non, vous serez sur place. Pour cela, il faut être tiré au sort et être très attentif quand vous entendez ça. Dès que vous entendez ça, vous avez 20 minutes pour envoyer foot par SMS au 732-16.
Un beau cadeau. Ça.
Et encore une fois, ça peut tomber à n'importe quel moment.
Eh
quand
ouais.
Jérôme le décidera dans Rotten Régal.
Exactement. Ça un magnifique tomber. Cadeau.
Voilà. Et on ne sait pas, il ne sait même pas quand
écoutez
est-ce que
bien.
Ça va tomber.
Donc, eh
voilà.
Oui, écoutez bien.
Voilà, exactement. Ça peut tomber à n'importe quel moment.
Ça peut arriver sur la deuxième heure. Donc continuez avec.
Eh, c'est possible.
Ouais, ou sur la première. Pas surtout.
Voilà.
Oui, oui. Mais bon, on va faire ça la deuxième.
Allez, on y va. PSG Bayern, tout de suite. On revient sur l'aller pour mieux se projeter sur le retour.
Mais voilà, on est venu avec nos convictions de jeu, cette envie, et on a joué avec beaucoup de personnalité, donc ça a roulé comme on dit.
Et sur son pied droit, il faut frapper. Et le but. Et voilà, le but de Mbappé. Le troisième but de Mbappé.
Il était solide et on a réussi à leur faire mal sur nos points forts, et on attaquera ce match retour avec la même détermination qu'aujourd'hui.
Ça n'est pas un exploit, je pense surtout que c'est ce qu'on appelle une anomalie statistique.
Vous avez été obligé de la mettre.
Ah oui. Polo Breiter, je serai avec nous tout à l'heure, à 19h30.
Ah ben encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a par exemple?
Messieurs, donc, bon, on verra. Beaucoup de choses ont été dites depuis donc mercredi soir et la victoire du PSG à Munich. 3-2. Exploit. Miracle. Anomalie statistique. Chacun a pu se faire son avis. Alors, désormais, on peut commencer à se projeter sur le match retour. On aura des infos à vous donner d'ailleurs sur l'infirmerie des Parisiens. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'avec le même match de la part des Parisiens à l'aller, ils puissent se qualifier à la fin au match retour, s'ils renouvellent cette performance? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses?
Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que le match a certes été très difficile pour le Paris Saint-Germain, on l'a vu, de toute façon. Ça le serait, ça l'aurait été pour toutes les équipes, je pense, qui vont jouer au Bayern Munich, parce que le Bayern Munich est la meilleure équipe du monde. Ils l'ont prouvé, ils sont titrés avec ça, ils l'ont montré sur les dernières prestations aussi, ils l'ont encore montré par moments offensivement sur le match de mercredi soir. Mais le PSG a réussi à les faire douter, à les faire reculer, à marquer des buts, à se créer des occasions. Et donc, je te dis pourquoi pas, parce que le plan, dans tous les cas, il peut pas y avoir un plan parfait contre le Bayern Munich. Parce qu'il faut reconnaître aussi la qualité de cette équipe, la qualité technique, la qualité collective, mais ça, on le dit souvent, mais on l'a encore vu, la qualité du rythme, les prises de risque, parce qu'ils acceptent, et peut-être un peu trop, en effet, les déséquilibres, et le PSG a joué là-dessus. J'aime bien le retour de Kylian Mbappé, là, quand il nous dit en conf de presse après le match, on a joué sur nos points forts. Oui, ouais. C'est vrai. La vitesse, la qualité de ressortie de balle. Alors oui, pour certains, c'était insuffisant. Pour certains, il aurait fallu que le Paris Saint-Germain, sur un match à l'extérieur en Ligue des Champions, en quart de finale, avec ce contexte-là, le froid, parce que le froid est certes pour les deux équipes, mais quand même, tu sais, psychologiquement, quand tu reçois, en général, t'as un peu plus d'excitation. On l'a vu, je l'ai vu sur l'échauffement aussi. Donc, ça a joué en faveur du Bayern Munich, tout ça. Et malgré tout.
Tu peux ajouter les absents, peux ajouter le niveau du Bayern.
En plus, voilà. Donc, si tu veux, pour ceux qui me disent qu'aujourd'hui, s'ils renouvellent la même chose, le Paris Saint-Germain, ils ne passeront pas. Eh ben, je suis pas certain. Pas ah ben non, je suis pas certain qu'ils aient raison. Oui, surtout.
Toi, tu veux dire que il y aura aussi des espaces au retour. Non, Mbappé pourra aussi faire mal à la défense.
Exactement. Non, mais au bout d'un moment, un match de haut niveau, on peut voir. Si tu regardes les deux équipes, et ce qui m'a embêté dans l'analyse de certains, c'est de regarder que la faiblesse du Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'il y a eu des faiblesses. Je suis pas en train de te dire que le PSG a archi dominé et s'est baladé. Non, par moments ils étaient au bord de la rupture, Mais si tu vois et dans ces cas-là, tu regardes que le positif et la qualité du Bayern Munich. Mais le Bayern Munich, ils ont eu des faiblesses sur ce match. La faiblesse de le bloc équipe coupé en deux assez vite parce qu'ils prennent beaucoup de risques et ils acceptent en effet le déséquilibre. Le problème, c'est que en acceptant ce déséquilibre-là, quand tu as une équipe en face qui arrive avec la qualité technique de Di Maria, de Draxler, même l'abnégation, la solidarité de Gueye, par exemple, plus Neymar, bien sûr, et Mbappé, la vitesse d'Mbappé, c'est sûr que ça a fait des étincelles. Parce que le PSG a marqué 3 buts, certes, et certains vont dire, mais le Bayern, ils ont frappé 31 fois. Oui, mais sauf que les 3 buts du PSG viennent pas par hasard, parce que sur les 3 buts du PSG, tu sais qu'il y a eu au moins 6 ou 7 grosses occasions du Paris Saint-Germain. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, ils ont
occasion ou situation, quoi.
Occasion.
Celle de Neymar quand il y a le cafouillage là où
celle de Neymar,
je ne pense pas si c'est occasion en plus des 3 buts.
Mais bien sûr, celle de Neymar, le but refusé à Draxler en début de match alors que ça joue à un orteil. Déjà ça fait 5 avec si tu rajoutes les 3 buts. Déjà ça fait 5 en tout. Pour moi il y a des phases intéressantes dans la ressortie où des
La statistique est bonne.
Et oui, donc si tu veux, on peut toujours voir noir et toujours voir l'équipe qu'on a joué supérieure. Mais là, il faut se sortir dans la peau des supporters du Paris Saint-Germain ou de l'émotion du match. Là, c'est une analyse un peu plus avec du recul. Et quand tu regardes le Bayern, même s'ils ont ce côté sur deux, même encore après le match avec ce résultat-là, en te disant...
Ils sont sur deux,
l'arrogance ou quoi que ce soit. Oui, mais sauf que avec le recul, je pense qu'en effet, et ils sont déjà adaptés en deuxième mi-temps.
Oui.
On en a parlé tout à l'heure, Jean-Louis. Mmh. En deuxième mi-temps, Pavard, il est beaucoup moins monté.
Oui.
Ils ont fait plus attention à l'équilibre de l'équipe parce qu'en effet, quand on prend deux en première mi-temps, tu te dis, écoute, si on continue comme ça, peut-être qu'on va en prendre deux ou trois encore en deuxième. Et là, c'est pas possible. Donc, ils sont aussi adaptés. Donc, il y a eu l'intelligence de Flick de dire, attention, les gars, méfiez-vous. Et comme par hasard, en faisant ça, ils se sont créés un peu moins d'occasions, un peu moins de situations en deuxième mi-temps, alors que là, ils devaient revenir dans le match et remonter à résultat.
Alors,
donc pour tout ça, je laisse la parole bien sûr à Jean-Michel, je pense que le PSG doit garder une structure comme ça en protégeant l'axe. Accepter par moment de subir, oui, parce qu'ils vont subir, mais par contre, ne pas oublier que Pochettino, là-dessus, et je le disais avant le match, il a été un petit peu couillu de jouer avec 4 joueurs offensifs, mais ça lui a donné raison parce que le PSG a en effet marqué 3 buts.
Alors, Captain, t'es d'accord avec l'analyse de Jérôme?
Alors,
ils sont capables de passer en refaisant le même match aller?
Oui, nous avons un brillant journaliste avec nous, le plus brillant des journalistes d'ailleurs.
Jeannot est là.
Jérôme. Non, mais je pense que la question est mal posée.
Ah bon, d'accord.
Ben Jean-Louis, oui.
Alors vas-y,
oui,
reformule.
Oui, parce que quand tu dis le même match, ça voudrait dire le même scénario, le même déroulement, le même nombre de buts, le même résultat. Donc heureusement que nous n'aurons pas le même match. Et nous n'aurons pas le même match.
Exactement.
Ce que je veux dire, ce que tu voulais dire sans doute, c'était le même niveau de performance du Paris Saint-Germain.
Oui, est-ce c'est ça.
Avec...
Non, voilà. Mais en fait, c'était plus pour, entre guillemets, tordre le cou à l'idée de ils rejouent le même match aller plein de fois, ils passent pas. Et donc, s'ils refont le même match au retour, ils passeront pas.
Ah, ça, c'est les Celtic Gold qui t'a dit ça, non?
et effectivement.
Celtic Gold, Paris a perdu 4-1.
Avec, ouais. Non, mais avec le même niveau de performance, il est évident qu'ils peuvent réaliser le même niveau de performance, même plus élevé. Mais heureusement que ce football nous procure quand même des choses que l'on n'attend pas. Parce que, évidemment, il y a combien de temps que Neuer n'a pas pris entre les cannes, entre les jambes, un but comme celui qu'il a pris à la deuxième minute.
Ouais.
Oui. Donc, si vous voulez, on peut tout refaire. On peut, mais évidemment... que ce niveau de performance sera indispensable pour le Paris Saint-Germain, mais il ne sera peut-être pas suffisant. Et peut-être même quand ils sentent leur niveau de jeu, ils seront encore plus en difficulté. Certes, il faut que, à moins qu'ils en claquent quatre, les Bavarois, et que le Paris Saint-Germain n'en marque que deux, mais il faut que le Bayern Munich marque deux buts de plus que le Paris Saint-Germain pour
Exactement.
Se qualifier. Oui, c'est quand même pas, ça se trouve pas à tous les coins de rue, ça. Seulement, ce match aller a été tellement bizarre. On est passé tellement près de la catastrophe, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs.
Bien, exactement.
D'un côté comme de l'autre.
Exactement.
Jérôme le dit, à 2-0, si Flick et ses joueurs ne réagissent pas, ils peuvent en prendre comme au boule. Et le Paris Saint-Germain, quand le Bayern revient à 2-2, il peut perdre ce match.
C'est vrai.
Donc, dans ce match-là, on peut tout avoir. Et je pense honnêtement, et ce qui me fait flipper, je le dis simplement, c'est pas tellement le fait que le Paris Saint-Germain... Non, mais ce qui me fait...
Il t'inquiète.
Oui, j'ai des doutes. Voilà. Mmh. Ce qui m'inquiète, ce sont les performances, la performance du Paris Saint-Germain une fois de plus à l'extérieur et quand on les compare aux performances du Paris Saint-Germain
à domicile,
ça m'interpelle.
Ouais, c'est vrai,
peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va y avoir un changement d'attitude, mais dans le sens de l'histoire que ne souhaitent pas certains spécialistes du football allemand, dans le sens de l'histoire, il est évident que aujourd'hui nous avons eu un Paris Saint-Germain très performant à l'extérieur, comme il l'a été à Lyon, comme il l'a été
à Manchester,
à Barcelone, comme il l'a été à Manchester, et il l'a été à nouveau là. Les performances du Paris Saint-Germain à domicile depuis le début de la saison, avec un doigt, j'en ai su.
Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison.
Voilà, même performance indispensable. Peut-être pas.
Après, je pense que
c'est suffisant.
Ça joue aussi sur l'approche des matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, où très rarement ils se sont sentis en difficulté. Du moins avec cette crainte de passer à côté. Barcelone, ils avaient tellement gagné largement que on l'a vu. De toute façon, il a manqué par moment contre Barcelone. On le disait, à subir. Tu peux subir. Moi, c'est pas une tare. Tu sais, quand j'entends certains qui te disent aujourd'hui le PSG.
Mais ça fait partie du football, Jérôme.
Mais bien sûr.
Subir.
Mais
ces gens-là, alors Jérôme. Juste, ces gens-là,
oui.
Tu sais, c'est une chose que je n'aime pas jeter à la figure de quelqu'un en disant oui, mais toi, tu n'as jamais joué au football. C'est pas vrai, parce qu'il y en a qui n'ont jamais joué au football
et qui analysent très bien.
Qui comprennent le football et qui analysent
Merci, c'est
très
gentil.
Bien. Mais quelque part, Jérôme, ceux qui n'ont jamais joué un match de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe des clubs champions à l'extérieur, même contre des équipes modestes, ne savent pas la difficulté que cela
Exactement,
représente.
Exactement, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Et c'est bien de le dire parce que en fait, quand tu le dis, toi, tu passes pour un.
C'est difficile. C'est compliqué.
Non, mais c'est
un truc aussi.
C'est compliqué. Et c'est pas par rapport. Non, mais je te coupe, Jean-Louis, mais c'est même
donc
pas.
Tu peux subir.
C'est même
t'as
pas
le droit
par
de subir
à l'extérieur. Au budget ou aux joueurs. Bien sûr que le PSG a des joueurs de grande qualité. Que le PSG est capable, par moment, d'avoir plus de maîtrise technique, d'avoir un jeux où ils jouent plus haut, où ils ne jouent pas que en contre comme ils l'ont fait, en ressortant rapidement les ballons. Sauf que ils s'adaptent en fait. Le PSG, on peut les critiquer quand t'as ce genre de match contre Leipzig, par exemple, où
Jérôme, ne dis pas qu'ils se sont adaptés. Ils ont subi, ont fait un vrai match courageux face au Bayern Munich, une équipe qui était sans doute meilleure que
Jean-Michel.
Mais ça fait partie du football.
Mais bien sûr,
du football.
Non, mais c'est surtout que il y avait un plan. Le plan, c'était de défendre à l'intérieur. Tu l'as vu, tu le revois. Oui. Quand tu revois le match en direct, c'est laisser les côtés peut-être parce que Pochettino a trouvé que cet axe du terrain-là, c'est peut-être là qu'ils étaient très dangereux. Le rôle de Müller, parce qu'on n'a pas assez parlé, mais Müller, franchement, vous l'avez trouvé brillant sur ce match? Non. Contrairement à d'habitude, où il y a ce jeu avec Lewandowski, Kimmich qui vient là s'excentrer à chaque fois. Ce que je veux dire, c'était
lui, il n'a pas été mauvais.
Non, il a été très bon parce qu'il a eu une telle intelligence. Il a vu que c'était bloqué dans l'axe. Il s'est déporté sur le côté droit, sur le côté gauche pour délivrer des magnifiques ballons. Donc, il a un pied, une vision incroyable. Mais encore une fois, moi, c'est même pas une critique sur ces joueurs du Bayern qui sont des joueurs de grande classe. Mais comme te dit Jean-Michel, déjà un match à l'extérieur en Coupe d'Europe est très compliqué pour toutes les équipes. Mais encore plus quand tu joues le Bayern Munich à ce niveau-là.
Pour le match retour, pour être un peu optimiste, c'est que des matchs au parc dans cette configuration-là, parce que vous dites ils subissent, mais Paris, ils sont bons quand ils subissent, parce que justement Mbappé quand il a des espaces, il fait très mal. Et des matchs comme ça au parc contre des équipes qui jouent haut comme ça, il y en a pas eu beaucoup. C'est souvent contre les blocs bas que le PSG a du mal.
Sauf que la différence, c'est que en effet, ils se sont adaptés à ce que le Bayern proposait. Je veux dire, au bout d'un moment, ils étaient au bord de la rupture. On l'a vu parce que physiquement vraiment, les efforts des joueurs du Bayern sont impressionnants. C'est pour ça que le PSG a souffert aussi, parce que ils envoient le rythme qu'il y avait. Au bout d'un moment, ça redescendait jamais. Mais le problème de ça, c'est que quand tu joues des équipes un petit peu plus faibles que le Paris Saint-Germain en face, le Bayern peut les écraser. Voilà, là il y a certes de la réussite, parce que quand tu subis comme ça, que tu concèdes des occasions, que tu prends pas tout de suite le but, il y a de la réussite, ça fait partie du football et des matchs de très haut niveau. Mais la différence, c'est que le Bayern s'est même pas rendu compte qu'en face, il y avait aussi une équipe qui par moment était au bord de la rupture, mais qui était capable de ressortir le ballon. Et quand tu le ressors une fois, deux fois, tu crois que dans les têtes du Bayern, il y a pas eu des doutes au bout d'un moment?
On va continuer la discussion avec Achraf dans un instant, qui veut revenir sur le débat, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Et puis on aura des infos infirmerie à vous donner concernant les cas de Covid, Verratti et Florenzi. A tout de suite dans Roten Régal.
RMC
Roten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
Bonsoir à tous.
On est
18h17, toujours dans Roten Régal, bien sûr, avec Jean-Louis, bien sûr, Jean-Michel Larquet. On continue le débat sur le Paris Saint-Germain. On va recevoir un auditeur.
Exactement, et à 18h30, Garcia a-t-il perdu la main sur son groupe à Lyon? Ce sera l'affrontement l'élève contre le maître, comme tous les vendredis soirs. On continue sur le PSG avec Achraf, qui nous a appelé au 32-16. Salut Achraf.
Salut Achraf.
Bonjour à tous, salut.
Ah, toi, tu n'es pas supporter du PSG?
Non, je suis supporter de l'OM.
Oula. Mais ce que t'as entendu, t'as poussé à appeler.
Exactement, parce que ces derniers jours, j'entends parler, on se demande si c'est un exploit, si c'est un miracle, etc. C'est une énorme perf, c'est vraiment une belle performance. C'est pas un exploit, Paris est constitué pour gagner ce genre de match. Alors c'est pas normal non plus d'aller battre le Bayern chez lui. C'est une grosse performance et Paris, et en fait je trouve qu'on minimise grandement la puissance potentielle de ce Paris Saint-Germain. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur ce que, alors à mon sens, ce que j'ai remarqué, sur l'arrogance allemande. Déjà, ça a commencé juste après le tirage au sort. Alors moi je l'ai interprété comme ça à ce moment-là, mais on peut ne pas être d'accord avec moi. Lorsque Müller se filme en se félicitant de tomber sur le Paris Saint-Germain et en... Alors c'était pas méchant, mais j'ai trouvé ça... Enfin, je me suis dit, si j'étais joueur du Paris Saint-Germain, pas sûr que ça me...
Ça peut t'exciter un peu, ouais.
Que ça me fasse vraiment plaisir.
L'autre c'était vraiment gentil, j'ai trouvé, pourtant, Charles.
C'était pas méchant, mais je suis
vraiment
pas
agressif, il n'y a pas de moi.
Je sais, en tout cas, moi, sur le moment, c'était deux semaines avant le match aller, je me suis dit, bon, je sais pas, j'aurais été joueur du PSG, je sais pas, j'aurais pas trop. Mais bon, on peut ne pas être d'accord. Le deuxième indice sur l'arrogance allemande, j'ai trouvé, surtout qui était extrêmement visible sur le premier but de Mbappé. Donc c'est Neymar qui lui donne le ballon Et je ne sais pas si vous avez remarqué le temps que met Goretzka et Kimmich à démarrer sur Neymar. On était à la deuxième minute de jeu, donc il n'y a pas d'excuse de physique. Et quand, au bout de la deuxième minute, j'ai joué à un niveau vraiment très modeste à ce poste-là de milieu de terrain, il faut absolument... Vous ne pouvez pas être aussi dilettante dans un quart de finale de Ligue des Champions sur un mec comme Neymar.
En fait, c'est pas, tu vois, je te coupe là, Achraf, mais je pense que c'est pas du dilettantisme, hein, sur cette occasion-là. C'est que Bayern a eu, comme envie, et on l'a vu sur les toutes premières secondes, c'est d'aller presser haut, comme ils l'ont fait. Et comme ils le font très souvent, ils te mettent un gros tempo, ils récupèrent ils grattent des ballons, surtout Kimmich et Goretzka, assez haut en prenant des risques, parce qu'ils prennent des risques dans le pressing. Et souvent, ça marche, parce que l'équipe en face, elle est asphyxiée, elle perd des ballons. Sauf que là, sur ce coup-là, rappelle-toi comment ça se passe. Passe sur Di Maria. Et Di Maria, il a une inspiration géniale. C'est qu'il met le ballon dans l'espace entre les deux, là. Kimmich, il anticipe déjà la passe latérale, alors que là, il est pris dans son dos. Et derrière, c'est trop tard. Derrière, la vitesse de Neymar fait la différence.
Je comprends ce que dit Achraf. C'est-à-dire que dans la tête de Kimmich et de Goretzka, ils se disent, bon, c'est à la deuxième minute, c'est pas à la deuxième minute qu'on va prendre le but.
Oui, c'est vrai.
Donc
c'est
peut-être qu'à la deuxième minute, ne faisons pas l'effort qui est indispensable. Et puis à la sortie, il fallait à tout prix le faire. Et ils ne l'ont pas fait.
Et c'est surtout qu'en deuxième mi-temps, il y a un vrai changement dans l'attitude des milieux de terrain du Bayern, Alaba et Kimmich, qui revenaient. Alors, pour le coup, ils revenaient. Une fois, ils sont pas revenus. Et d'ailleurs, vous regardez la réaction de Boateng après le troisième but, où il lève les bras au ciel en regardant ses milieux de terrain, en leur disant, vous jouez à quoi? Bon.
Ouais. Bon, il a le droit de défendre aussi, hein.
Ouais, et de courir.
Il a le droit de défendre, au lieu de faire du recul-frein, l'impression qu'il allait taper Neuer.
Il recule encore, là.
Il a fini derrière les buts.
Il nous a fait une vainqueur sur le coup.
Et enfin, voilà, le dernier point, encore, c'était un de vos correspondants aussi, qui a dit que le Bayern, il ressentait une certaine confiance.
Je te confirme, j'y étais, je te confirme.
Pour tous ces éléments-là, ici en France, médiatiquement, on mesure pas la puissance de ce PSG, et les Allemands non plus. Et ça, c'est une chance pour le Paris Saint-Germain. Et aussi, on la mesure pas aussi à cause de certains traumatismes, du 6-1, du retour contre Manchester, qui reste, on reste vigilant là-dessus. Mais pour tous ces éléments-là, je trouve que c'est bien pour le PSG d'avancer en position d'outsider, mais en même temps affirmé. Vous voyez,
très bien. Non, mais c'est vrai. T'as raison.
Pour un supporter de l'OM, dis donc.
Ouais. Quelle lucidité. Bravo.
Très belle lucidité.
Voilà, je vous en prie, tout le plaisir. Et pour
salut Achraf.
Ça arrivera pas souvent.
À bientôt.
Alors, courage à Montpellier, parce que c'est pas gagné pour Marseille.
On en reparlera tout à l'heure à 19h, effectivement. Alors, les infos infirmerie. Comment?
Les infos infirmerie.
Bon, on y va. Les infos infirmerie. Je crois que Jean-Michel voulait en placer une, mais on comprend pas ce qu'il dit dans sa barbe. Donc, Verratti et Florenzi pourraient sortir dimanche de leur isolement, puisqu'ils sont positifs au Covid, et donc reprendre l'entraînement lundi. Est-ce qu'une reprise d'entraînement lundi en fait, pour un match mardi,
Ça dépend ce qu'ils ont fait, Jean-Louis. Et là, il faudrait juste savoir.
Tu nous disais, Loïc Tanzi, t'as interdiction de courir quand t'as l'isolement pour Covid.
Donc, problématique.
Faire des exercices,
très problématique. Dans quel état ils vont être
très problématique.
Mercredi.
Non, mais très problématique.
Donc, tu peux pas compter sur eux?
Je pense pas. Je pense pas, vu le vraiment, et encore une fois, et pourtant, Dieu sait que je le défends et que je l'aime,
avec Verratti et Danilo.
Mais non, mais le rythme de ces matchs-là, vraiment, et Jean-Michel a raison, c'est pas dire t'as pas joué donc tu sais pas, mais quand tu joues des matchs de ce niveau-là, franchement, tu sais que le rythme, l'intensité, il va falloir enchaîner les kilomètres, les allers-retours, le combat, la solidarité, parce que c'est dur contre ces équipes-là. Et un joueur qui n'a rien fait pendant une semaine, d'un point de vue physique, en termes de course et tout ça, en l'espace de deux jours...
Passe à la moulinette.
Mais oui, exactement, oui. Tu peux pas tenir.
Et en plus, il y a un truc que tu sais pas, c'est comment tu te remets du Covid. Vous voyez Moïse Kean qui a beaucoup de mal à se remettre.
Ah, mais tu l'as vu. Oui. Alors, de ça, où moi je prends sa défense à l'antenne quand il rentre, c'est que quand le match est d'une telle intensité, déjà avec ce froid-là où t'as tendance à mal t'échauffer quand t'es remplaçant, tu rentres plus le Covid, le rythme, tout de suite t'es asphyxié, Il a avalé tout l'orchestre là sur le premier repli défensif.
Ah, bon. Ah bah tiens, moi ouais. Les miens ils avalaient juste la trompette.
Ah mais lui, toi, lui il avalait tout l'orchestre. Ouais ouais, parce qu'il a failli tomber. Il avait un gros bide après.
Donc voilà pour Verratti et Florenzi. Donc peut-être dans le groupe, voilà.
Ouais. Le seul problème. Non, moi c'est pas un problème Marc pour ces joueurs là parce que dans tous les cas dans le secteur au milieu de terrain. T'as les joueurs, pour l'instant, ils sont pas déplumés. Je repars pas à la poisse sur le match de ce week-end qui se blesse pas. Mais
il y a le retour de Paredes.
En plus, t'as le retour de Paredes.
Oui, exactement. Donc, Marquinhos est donc touché. Il souffre d'une petite lésion de grade 1 à l'adducteur.
Oui.
Donc, il joue pas contre Strasbourg, évidemment, au milieu de semaine. Est-ce qu'en 6 jours, non ouais, promets pas en 6 jours.
Ben, c'est un grade 1. Alors, c'est toujours pareil. Normalement, attention, je suis pas docteur, oui. mais j'en ai vécu des blessures comme ça, et c'est vrai que plus ça va et plus tu gagnes du temps parce que les délais sont plus courts dus aux soins où ils sont encore plus précis qu'à une certaine époque. Mais en général, grade 1, c'est une semaine. Donc ça veut dire que ça a un peu saigné, c'est juste des fibres qui se sont déchirées, mais il faut respecter déjà la cicatrisation. La cicatrisation, c'est que surtout à l'adducteur, tu peux pas faire de travail physique, c'est toujours la même chose pendant un certain temps. Donc parce que s'il fait un travail physique sur une plaie, quelle qu'elle soit, petite ou grande, dans tous les cas, ça va jamais cicatriser. Donc il faut pour moi il faut une semaine de puis en plus c'est l'adducteur quoi. C'est pas n'importe quel muscle, l'adducteur.
Ceux qui ont eu mal aux adducteurs savent quand même que c'est quelque chose. Tu n'avances plus.
Mais ça, c'est problématique. C'est un peu plus problématique quand même que.
C'est-à-dire Danilo encore en défense centrale.
Ouais, et puis surtout tu perds, même si tu l'as perdu en cours de match.
Ton buteur.
Ouais, ton buteur, mais quand même, il représente beaucoup.
Ton leader.
Aujourd'hui, c'est ton leader. Ouais.
Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à avoir Danilo, Kimpembe.
Mais en fait ça va.
Et là, Paredes au milieu avec Gueye.
Tu me parles des absences de Paris, mais c'est pareil pour le Bayern.
Alors on y reviendra en détail avec Polo, hein. Mais
oui.
Déjà sur le match de ce week-end, face au Hertha Berlin.
Ouais.
L'Union Berlin, pardon. Excusez-moi. Ce sera donc demain. Lucas Hernandez est forfait pour ce match. Et il y a donc.
Est forfait pourquoi?
Pour le match de championnat.
Oui, mais par rapport à quoi?
Il a pris un coup dans les côtes, je crois.
D'accord.
Non, il a pas pris.
Oui, il a douleur aux côtes. Exactement.
Douleur aux côtes.
Mais pas de crainte pour le PSG.
D'accord.
Le match de PSG. Forfait de Zoule, ça on le savait depuis hier. Donc voilà.
Bah, Zoule, lui, il va être forfait même pour
Paris.
Pour Paris.
Oui, exactement. Doute sur Goretzka.
Goretzka, c'est pareil. C'est vu comment il est sorti du match. C'est comme Marquinhos. Tu sors pas d'un match d'une telle intensité comme ça par hasard. Dire, tu l'as vu, Goretzka déjà, il était pas dans son assiette. Je pense qu'il avait une douleur avant de jouer, qu'ils ont forcé, et ça s'est aggravé. Donc, à mon avis, Goretzka ne sera pas là au match retour non plus.
Alors, Flick a dit qu'il avait de l'espoir pour
lui. Oui, bah, ils avaient de l'espoir pour Lewandowski. Hein.
Et alors, bon, aujourd'hui, il y en a plein qui ne se sont pas entraînés. Sané, Pavard, Kimmich,
ils seront là.
Bon, voilà. Et peut-être qu'ils feront l'impasse sur le match de l'Union de Berlin.
Moment, les entraînements, Jean-Louis, je pense qu'ils se mettent en tenue, ils sortent, ils respirent un petit peu l'air de la Bavière et ils rentrent prendre la douche.
C'est ça, exactement.
Il y a les entraînements actuellement, ça doit pas être d'une intensité exceptionnelle.
Le côté fort du Bayern avec ses attaquants de côté plus Müller et les deux milieux défensifs, normalement ils seront là, sauf Goretzka. Je te dis, c'est un gros point d'interrogation. Si Goretzka n'est pas là, plus Zoule en moins. C'est quand même quand tu me parlais de la façon de jouer,
suspendu, hein.
La façon de jouer du PSG, je suis pas sûr qu'il faut pas renouveler à peu près la même expérience que le match aller quand t'entends ça.
Ouais, je suis en train de réfléchir comment il pourrait jouer au milieu.
Enfin, au milieu à là-bas.
Bah non, à là-bas il va devoir jouer derrière puisque Davis est suspendu.
Davis.
Donc Hernandez va jouer arrière gauche et donc à là-bas va devoir jouer en défense centrale. Enfin, je sais pas, il faudra en reparler avec Polo.
Donc ça, c'est oui, mais t'as raison.
Mais
Davis suspendu. Ah ouais.
Ah bon, écoute,
hein, chacun.
Oui,
chacun
on verra.
Son problème.
Ça se trouve, Goretzka sera là et ça réglera les problèmes.
Ouais.
Dans une seconde, Rudy Garcia a-t-il perdu la main sur son groupe au pire moment de la saison? 32-16 pour en débattre, supporter lyonnais. On vous attend au 32-16 dans l'élève contre le maître.
RMC.
Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
18h32, vous êtes sur AMC, bien sûr. Toujours dans Rotten Régal avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, c'est le moment du duel.
Voilà, avec, alors juste avant, je précise quand même, je dis une petite bêtise. Alfonso Davies n'est pas suspendu pour le match retour du PSG, mais pour le match de championnat.
Ah, bah ça y est, la compétition de l'équipe.
Elle est faite. Voilà. Elle est faite.
Du coup, ils n'ont plus de problème. Voilà. À 18h45, ce sera le journal moyen.
Merci Jean-Louis.
Dans Rotten Régal.
Il a suspendu avec le match du week-end.
Avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut messieurs, ça va. Des saucisses. Alors beaucoup de saucisses cette semaine pour le journal moyen.
Il y a des directs.
Ah, il y a plein de directs, plein d'émissions, ouais, plein de débats. Et retour sur Jérôme Rotten, quand même, gros plan sur le voyage de Jérôme à Munich. Jérôme a eu très froid et à un moment la mâchoire s'est légèrement paralysée.
C'est vrai.
C'est pas grave. Rendez-vous 18h40.
Tu fais plus des vidéos comme avant là?
Si, j'ai fait une vidéo.
T'as fait,
Alors, oui.
Tu l'as posté où?
Sur Insta.
Sur Twitter ou sur Insta. Mais je te suis sur Insta.
Eh oui.
J'étais sur Twitter avant.
Merci Adrien.
Eh bien, ce sera l'occasion de faire un prochain journal moyen avec les vidéos de Jérôme Rotten. Merci Jean-Louis.
À tout à l'heure. Allez, Rudy Garcia.
RMC, pour tuer l'ennui ou par nécessité, plus de 500 000 retraités ont repris une activité.
Jean-Michel Larquet.
Tout à fait.
Mais parfois, c'est tout simplement pour leur grand âge
que les entreprises parce que
recrutent des retraités.
Vous pouvez pas me lâcher un petit peu avec ça, non? Ah, ça devient insupportable.
En même temps, tu nous as donné
heureusement que je suis de bonne constitution quand même. Du pain à moudre.
Oui, comme disait Laurent Blanc. Ils nous ont donné du pain à moudre.
Ah, c'est du pain à moudre. D'accord. Non, mais je...
En même temps, tous les Stéphanois sont de bonne composition. Polo, Captain Larquet.
C'est vrai.
Et voilà. Rudy Garcia, qui est un ancien Stéphanois.
C'est vrai. En plus. C'est vrai. Enfin, il n'a pas l'accent Stéphanois. Il a plus l'accent parisien quand même quand il parle. Hier, Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Tirage au sort ce soir, à 20h45. Qualification très laborieuse face au club national du Red Star. C'était au tir au but que les Lyonnais sont passés. Pourtant, ils menaient 2-0 dans cette rencontre. Finalement, ça finit à 2-2. Et la série peut inquiéter parce que toute compétition confondue, c'est 4 matchs sans victoire pour Lyon au moment où on est en pleine course au titre. Et en plein sprint final. Alors Rudy Garcia avant le match avait piqué un coup de gueule sur l'investissement des joueurs, mais bon, ça n'a pas eu trop d'effet. Est-ce qu'il a perdu la main sur son groupe, Captain?
Oui, et c'est un peu de sa faute et beaucoup de la situation dans laquelle le club a mis son entraîneur, parce que il y a beaucoup de choses. Oui. Je pense qu'effectivement, je dis c'est sans doute un peu de sa faute. Et aujourd'hui, s'il n'a plus la main sur son groupe, aujourd'hui, son groupe est quatrième de Ligue 1. Donc, je sens quand même que la patate est extrêmement chaude. Peut-être que l'Olympique Lyonnais ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions, et pourtant, c'était son objectif. En tout cas, des quatre équipes qui sont en lice là-dessus, là, pour cette compétition, ce sont les plus mal loties, et en tout cas, ceux qui font la moins bonne impression. Et gueuler, hurler, mettre en garde ses joueurs lorsque tu n'as plus la main sur le groupe, je pense que ça ne sert strictement à rien. On avait vu Jacques-Henri Hérault hurler après l'Olympique de Marseille, après une défaite contre Nîmes. C'était comme s'il l'avait fait dans un violon, c'était la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il a perdu sa main, mais est-ce que c'est vraiment que de sa faute? J'ai quand même le sentiment que le feuilleton, non, Garcia ne passera pas l'été. J'ai l'impression quand même que c'est entré dans toutes les têtes des joueurs lyonnais, dont certains, et pas des moindres, rêvent d'un avenir ailleurs qu'à Lyon. Et j'ai véritablement le sentiment, alors que le coach n'a plus la main sur eux. Alors je ne sais pas quel est le degré de responsabilité, mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, Jérôme, c'est que les dirigeants proches, très proches, les deux dirigeants très proches de Rudy Garcia ne font rien pour valider son autorité et en tout cas dire que jusqu'au bout ils seront avec lui et qu'ils iront à la guerre avec lui. J'ai quand même le sentiment qu'il est fragilisé de toutes parts et on le sait très bien. Les joueurs, si on peut les laisser tranquilles, s'il n'y a personne pour leur mettre un petit coup d'aiguillon aux fesses le matin, ça leur convient parfaitement. Et hier, à 2-0 au Red Star contre une équipe de nationale qui essaie de revenir en Ligue 2, ce qui s'est passé, je veux dire, c'est je veux bien que ce soit la faute de l'entraîneur. Mais enfin, les joueurs, les joueurs, t'as pas le droit. 2-0 contre une équipe de nationale, t'as pas le droit de faire ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, même si c'est sur un synthétique. Et là encore, bon, on se cherche des excuses. Honnêtement, Jérôme, je pense que ce garçon-là est en train, je parle de Rudy Garcia, est en train de vivre une période très compliquée. Et ses dirigeants ne l'aident pas beaucoup pour se sortir de cette situation.
Jérôme, tu es d'accord avec ça? C'est pas la faute de Rudy Garcia s'il a perdu la main sur son groupe?
Écoute, je détiens pas la science infuse. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Michel. Le seul problème, c'est que aujourd'hui, s'il y a une cassure avec les gens proches de lui, du moins l'équipe dirigeante, que ça soit le président et encore avec le président, il y a pas tant de cassure que ça parce que ils se sont mis d'accord d'emblée. Mais c'est avec Juninho. Et Juninho qui est le patron du sportif. Et encore une fois, quand le patron du sportif n'arrive pas à s'entendre avec l'entraîneur, on l'a vu au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, dans tous les cas, ça a des effets néfastes sur les joueurs. Mais à la base, c'est quand même Rudy Garcia, c'est venu de Rudy Garcia. Quand il est arrivé, rappelle-toi, à Lyon... l'effet de surprise qui prennent l'équipe comme ça, c'était pas forcément le choix numéro un de Juninho, mais il l'a validé. Derrière, il y a eu quand même des choses entre les joueurs, avec les joueurs. Rappelle-toi de Aouar, le fameux décrassage, du moins qui saute et tout ça, l'affaire Aouar. Et ben ça a mis quand même l'autorité de Juninho aussi à mal. La relation avec Rudy Garcia, elle s'est cassée encore plus à ce niveau, du moins à ce moment-là. Et derrière, de toute façon, il est rattrapé parce qu'il a mis en place. Il avait une équipe. On l'a mis en avant. Pas de problème. Ce que t'as fait à la finale à 8, t'es passé carrément à autre chose pour faire une superbe série. Mettre certains joueurs, l'effet de surprise, Kadewere, Toko Ekambi, les attaquants de côté là avec beaucoup de vitesse, qui étaient en pleine réussite à ce moment-là. Tout le monde a dit waouh, bravo ce qu'il a mis en place. Et moi le premier, hein, je l'ai pas critiqué.
Jean-Michel le deuxième.
Du moins Jean-Michel le premier et oui, moi voilà. Le deuxième. Mais après ça a commencé à il y a eu un petit grain de sable, les joueurs qui sont moins percutants, moins bons, moins réalistes, moins efficaces, à commencer donc par Kadewere et Toko Ekambi. T'as eu un recrutement quand même, t'as un effectif aujourd'hui qui te permet de voir venir, d'anticiper les méformes. Il l'a jamais fait et le pire c'est qu'il a perdu cette fameuse concurrence dans le groupe. Quand tu donnes trop de crédit à certains et que tu t'entêtes, quand t'as des stats comme Kadewere ou Toko Ekambi actuellement, et ça date maintenant depuis 7, 8, 10 matchs, et que tu changes jamais, t'as des joueurs sur le banc qui rongent leurs freins, qui sont obligés d'attendre les 20 dernières minutes pour rentrer en jeu, ou des malheureux matchs de Coupe de France quand tu joues Ajaccio à domicile ou je sais plus quoi, il y a eu l'autre match à domicile aussi contre une équipe de Ligue 2, ils en ont fait deux de suite où ils ont gagné très largement, mais il y a pas de suite. Et aujourd'hui tu te dis bon, on va jouer le match au Red Star. Oui, c'est un match traquenard. Bien sûr, c'est un match traquenard. On les a tous connus. Mais Lyon, aujourd'hui, ce match traquenard, tu dois pas l'avoir parce que t'as que le championnat à jouer. T'es dans une mauvaise période. Et t'as l'occasion peut-être de gagner quelque chose enfin que t'as pas gagné depuis des années. Donc normalement tu dois pas avoir le mot traquenard dans la tête. Le problème, c'est qu'ils ont failli passer à la trappe en effet. Et que là, tu sens que Rudy Garcia, même s'il les a prévenus, bah les joueurs, ils l'écoutent plus comme c'était le cas il y a quelques semaines. Et ça, malheureusement, c'est trop tard pour lui.
Mais dès le départ, quand même, on va vite se rappeler l'épisode qui s'est terminé le 31 août avec les transferts. C'était bien le 31 août.
C'était même plus tard.
Non, c'était après, bien
c'était
après.
C'était plus tard.
C'était bien après.
En octobre.
Donc, oui, ça avait été repoussé à cause du final 8.
La finale à 8 et puis le contexte.
Bien sûr. Mais jusque-là, tu comprends, donc on va dire mi-septembre, tu as la direction qui ne pense qu'à une chose à ce moment-là, on connaît pas les raisons, mais probablement financières, qui veut que Aouar et Depay s'en aillent. Et tu te rappelles le début de saison.
Ouais.
Là, L'entraîneur, il subit. Et ceux qui voulaient le départ de Depay et Aouar, lorsqu'ils sont pas partis, disent, ah ben, ces deux joueurs-là sont indispensables à notre équipe. Je pense que ça doit pas être tous les jours très facile oui, d'être entraîneur à l'Olympique de Lyon.
Mais là, je te rejoins, Jean-Michel. Je te dis pas que le rôle de Rudy Garcia est facile, mais il est pas à plaindre quand même. Aujourd'hui, t'as que.
Mais je le plains pas. Je ne le plains pas. Je dis que c'est un rôle difficile. Il m'est arrivé de m'accrocher avec le plus souvent qu'à son tour avec le président de l'Olympique Lyonnais. Il faut reconnaître son travail, ouais, son investissement et tout. Mais ça ne va pas être tous les jours facile.
Oui, mais sauf que contrairement à d'autres années, et tu le sais, même si là, il commence à sortir du bois, à reparler un petit peu, parce que peut-être qu'il sent le vent tourner et qu'il se dit, oh là là, si on finit quatrième, c'est dramatique.
Mais, après, ils sont quand même points la Ligue des Champions quand même.
C'est pas perdu.
Ils sont quand même points, mais il vaut mieux. C'est comme le Paris Saint-Germain, il vaut mieux avoir un point d'avance qu'un point de retard.
C'est pour ça qu'il met la pression, effectivement.
Il met la pression et que. Moi, je l'ai trouvé, à part ces derniers temps, en effet, là, où il commence à il l'a laissé tranquille, quoi. Oui. Et que Rudy Garcia, encore.
Ah, il l'a laissé tranquille. Bah, il l'a laissé tranquille. Enfin, il n'a jamais clairement répondu à la question sur l'avenir de.
Oui, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, tout le monde le sait. À Lyon, même des joueurs, et pas tous les joueurs, parce que je ne vais pas parler au nom de tous les joueurs, mais des joueurs, ils en ont un petit peu marre des méthodes de Rudy Garcia. Juninho, par rapport à plein de scénarios, comme je t'ai expliqué, je pense qu'en effet l'avenir de Lyon ne passe pas pour Juninho, ne passe pas par une prolongation de Rudy Garcia, et puis surtout les supporters. Au d'un moment, c'est l'émotion que tu transmets. Les supporters, ils ont fermé leur tronche quand ça se passait bien dans ce système-là. Sauf que quand t'as commencé à perdre des points, à être une équipe un petit peu moins spectaculaire, et toujours les mêmes discours à la fin du match, quand tu gagnes pas, c'est un problème d'efficacité. Et quand tu gagnes, bah, c'est que t'as mérité de gagner, en tous les cas. Et que, non, mais, et qu'il a jamais changé, parce que pour moi, encore une fois, mais c'est plus facile à dire au rôle que j'ai aujourd'hui, mais quand tu regardes l'effectif de Lyon, des jeunes joueurs qui devaient passer un cap, progresser, ils l'ont pas fait. Ils ont très peu joué, à commencer par Cacré et Cherki, par exemple, même si Cherki rejoue là depuis un certain temps. Mais ces joueurs, plus d'autres qu'il a sorti de l'équipe, Bruno Guimarães, tout le monde mettait en avant Bruno Guimarães. Au bout d'un moment, pam, il est sorti de l'équipe. Allez. Il l'a tué. Et ben ça, pour moi, c'est un problème de gestion.
Lyon qui jouera.
Et aujourd'hui, tu peux pas te rattraper, c'est trop tard.
Lyon qui jouera dimanche à 21h contre Angers. Donc ils auront tous les résultats du week-end de leurs adversaires directs. Donc ça peut être une grosse pression pour le match dimanche.
C'est même pas une grosse pression. C'est que s'ils le gagnent pas celui-là, je vois pas ce qu'ils peuvent espérer.
Dans une seconde, le journal moyen, un spécial Ligue des Champions. Puis je vous rappelle le jeu pour gagner vos places pour la finale de la compétition. Soyez bien attentifs, l'extrait sonore peut tomber à tout moment et après il faudra envoyer un SMS foot au 732-16. À tout de suite.
RMC, Roten Régal, Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h49, toujours dans Roten Régal. Allez, il reste plus que 10 minutes avant la fin de la première heure. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet, on est là après 19h.
Bah, le multiplex Ligue 1,
bien sûr.
La 32e journée.
Le multiplex étranger aussi. Là, on a hâte de recevoir Fred Hermel. Et Polo.
Bien sûr, Polo Breitner sera là tout à l'heure à 19h30. Et à 19h, la Ligue 1, on va lancer la 32e journée avec nos correspondants. Tout de suite, Journal Moyen, Adrien.
À la une du Journal Moyen de la semaine dans Roten Régal sur RMC. Jérôme Roten a eu très froid à Munich, ça arrive, moins 6, c'est froid. Un auditeur nous offre peut-être, pour moi, la séquence de l'année dans l'after. Et puis, beaucoup de saucisses, tous les bons clients étaient présents cette semaine. Peut-être un petit Jeannot aussi qui était en train de manger Jeannot.
Oui.
Vous écoutez RMC, les 18h passées de 49 minutes.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Roten Régal.
Adrien Aigouin.
Il s'est donc passé énormément de choses. Encore une fois, Vincent Moscato nous a parlé de foot sur RMC. C'est toujours un concept un peu curieux. Vous savez, cette tournée des clubs de l'agent d'Erling Haaland, Mino Raiola, Vincent.
Haaland qui fait le tour des clubs pour essayer de se vendre avec son père et Marioli, Manioli, enfin l'agent Rio, je sais pas le dire, merde. Encore une fois, je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas très grave,
Vincent. Mino Raiola, Marioli, on a compris, on comprend, c'est le principal.
T'as presque compris.
Il y avait du direct sur RMC toute la semaine, pendant les matchs. J'aime le bon sens de coach Courbis. Pendant Paris Saint-Germain, Lille sur RMC, Mbappé au moment disparaît un peu du match, il joue à gauche. Il disparaît un petit peu, le bon sens de Roland Courbis.
Ouais, mais bon, il n'a pas disparu non plus.
Si le ballon ne va pas du côté gauche, C'est qu'il est ailleurs le ballon.
Merci Roland, c'était intéressant. Toujours Coach Courbis. La Ligue des Champions, Bayern de Paris Saint-Germain, ah. Paris perd encore un ballon important. Roland Courbis, une histoire de bâton chez Roland.
Qui PMB à nouveau, il y a Müller qui fait le pressing, il y a Choupo-Moting qui n'est pas loin, on essaye de le garder comme on peut, Abdou Diallo face à Leroy Sané, qui va obtenir la touche.
Mais ouais, mais
sauter la ligne face au pressing comme ça.
Ils prennent le bâton pour se faire taper là.
Mais ouais.
C'est pas dans le bon sens là, Roland. Ils prennent le bâton pour se faire taper. Lionel Charbonnier qui dit oui, bien sûr. Bien sûr.
Ah bah oui.
Ben oui, Et on enchaîne les directs sur RMC. Arnaud Valadon, journaliste, qui commente Lens Lyon.
Jérôme, arrête. Jérôme, s'il te plaît, t'as pas le droit parce que ça va mal si t'as le droit.
C'est qui refait les mêmes sur Eurosport.
Alors là, celle-là, elle est belle aussi. Arnaud Valadon, Lens Lyon, histoire de poteau et de pénalty.
Et en fait, il y a un rebond, il y a un deuxième ballon à jouer et ça revient sur Karl Toko Ekambi, pas très loin du poteau de pénalty, mais dos au but. Et finalement, c'est les Lyonnais qui. Ouais, on voit, il a très bonne sortie de l'écac.
Poteau de pénalty.
Oui, bien sûr, le poteau de pénalty.
J'ai un petit Jonathan Macardy, sur RMC, qui nous parle de Manchester City. C'est léger.
Mais rappelons-nous que ça a été très compliqué pour eux et que ça leur a coûté beaucoup d'argent dépensé par les fenêtres pour trouver des bons défenseurs.
Ils dépensent l'argent par les fenêtres. Bah, oui. Il y a une machine à carte bleue là. Et puis, une semaine de foot sur RMC ne serait pas une semaine réussie sans Denis Charvet qui nous parle de foot.
Ah, oui.
Denis nous parle de Neymar. Une histoire de proue. C'est difficile de bien placer la proue, Denis.
Oui. Il a toujours été complice avec Messi. Ce mec n'y arrive pas tout seul. Quand il est tout seul, qu'on le met en tête de proue.
Tête de gondole, on n'a pas choisi.
Pourquoi il parle là-dedans? Il devrait se connaître, Denis.
Mais je pense qu'il aime bien y partir là-dedans.
Quand tu es dans la mer, tu es tête de proue, tête de nœud. Tout ça a des rapports avec la mer.
Appelons l'after, s'il vous plaît. Jingle.
Le Big Bang. Deux choses qui se cognent l'une contre l'autre pour que ça fasse quelque chose de la terre.
Alors, grand moment dans l'after. Grand moment grâce à un auditeur qui s'appelle Stéphane. Pour moi, c'est la star de la semaine. Stéphane appelle au 32-16 pour débattre de Marco Verratti avec Jonathan Macardy. Alors, attention, écoutez, donc il débat avec Jonathan de Verratti, la carrière de Verratti, c'est magique.
Je suis d'accord avec toi, quand il rentre sur le terrain, il est merveilleux. Mais être merveilleux en Ligue 1, à la rigueur, on s'en fout. Le Paris Saint-Germain n'en a pas vraiment besoin. Ce qu'on demande à Marco Verratti, c'est d'être merveilleux contre le Bayern. Et là, tu l'as pas.
Ok, d'accord. Tu l'as pas contre le Bayern.
On va se la refaire plus courte. C'est le bug radio de l'année pour moi. Stéphane, pris par Jonathan McCarthy. Stéphane,
ce qu'on demande à Marco Verratti, c'est d'être merveilleux contre le Bayern. Et là, tu l'as pas.
Ok, d'accord. Tu l'as pas contre le Bayern.
C'est pas un problème de téléphone, hein, c'est le bug. Je sais pas ce qui s'est passé, Stéphane.
Il était à court d'arguments.
Ça arrive. C'est l'instant Jérôme Bretagne.
Ah, enfin.
Et qui ose critiquer Cristiano?
Allez!
Qui ose critiquer Cristiano?
Allez!
C'est léger, Jérôme, parce que t'as bien tenu le coup. Il faisait froid quand même sur RMC Sport 1. Tu étais au stade. Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Sous la neige, moins 6 degrés.
Je sais pas si
vous avez moins 15 ressentis.
Ils étaient à un quart de finale de Ligue des Champions, ils ont eu froid. Oh là là!
Jérôme Rotten, a-t-il eu froid? J'ai noté une paralysie de la mâchoire. Et c'est beau sur 95 minutes. Une seule réelle.
Loin.
35e minute sur cette action de Dagba.
On voit un Dagba, mais Dagba, c'est bien quand il prend ses essais.
Que s'est-il passé?
Et franchement,
quand il parle quoi, c'est quoi? C'est responsabilité, ses initiatives.
Ses initiatives, je voulais dire.
Qu'est-ce qu'il a pris?
Qu'est-ce qu'il a pris,
Dagba, Jérôme?
On voit un Dagba, mais Dagba, c'est bien quand il prend ses essais.
Il y a un montage, je m'en souviens pas. Non, il y a un montage. Non, là, tu m'as eu. Tu m'as eu parce que je m'en souviens pas.
Bon, moi, je me souviens qu'il avait buté sur une initiative.
Est-ce qu'il y a eu un montage ou pas?
Je suis un peu dur. Oui. On va écouter la véritable version. Il y a l'instinct de survie du mec qui a froid. Ça partait mal, mais tu réagis. On écoute.
On voit un Dagba, mais Dagba, c'est bien quand il prend ses initiatives-là, pardon.
L'instinct de survie, tu t'es repris. J'avais coupé, bon, ça arrive parfois.
Je me souviens pas de celle-là.
Ça, c'était bon. On peut le remettre une dernière fois. La version
courte. La version courte. La version courte. Adrien qui est en régie à la réalisation. Il dit, il fait froid.
On voit un Dagba, mais Dagba, c'est bien quand il prend ses essais.
C'est quand même c'est mythique.
Allez, merci Adrien.
Ah, mais à ce moment-là, il faisait moins 18.
Ouais, c'est ça. Dans une seconde. La Ligue 1. L'absence de Jonathan David peut-elle coûter le titre à Lille ? Faut-il prolonger Der Zakarian à Montpellier ? Voilà quelques-uns de nos débats, avec en plus les infos de nos correspondants en région. C'est dans une seconde dans Roten Régal. A tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Roten Régal.
RMC,
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
19h sur RMC, toujours dans Roten Régal, bien sûr. Allez, c'est reparti pour la deuxième heure avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Jean-Louis, c'est parti pour le Multiplex Ligue 1. On va se lancer dans cette journée de championnat.
Exactement. Juste avant tout ça, quand même, on n'oublie pas le quiz de Roten Régal.
Ouais,
qui a gagné la semaine dernière?
Bah, c'est moi.
Pas là.
C'est moi
qui a gagné. D'accord.
C'est moi.
Qui a gagné. C'est moi.
T'as fait match nul ou quoi?
Non, c'est moi.
Bon, d'accord.
Mais comment, c'est toi? C'est pas moi.
Non, il te chauffe, je pense. Enfin, je sais pas, en fait. Moi, j'en sais rien du
c'est
tout.
C'est moi, c'est moi.
Bon, d'accord. Allez, moi, on verra tout à l'heure.
5.
Il y a 5-4.
Exactement.
5-2, 5-2.
Ah ouais, 5-2.
Ouais, il a été très, très faible.
Ah, il a compté ses points avec le décalage, j'ai l'impression.
Ouais.
Le quiz, vous pouvez jouer avec Captain ou Jérôme. Vous faites le 32-16 pour vous inscrire. On ira à l'étranger à 19h30, le multiplex européen. Il y a le Classico en Espagne, Real Barça. Ah, oui. Donc, Fred Hermel sera avec nous pour en parler. Et puis, on verra comment l'Allemagne analyse le Bayern PSG avec 48 heures de recul.
Là, j'espère quand même qu'il y a un peu plus de.
Polo Breitner sera avec nous.
Oui, là, il y a. Bah, dans l'émotion, je peux comprendre certaines phrases. Mais là, je ne les comprendrai pas 48 heures après.
On verra tout à l'heure. Tout de suite, c'est la Ligue 1. On lance sur RMC la 32e journée.
RMC, Roten Régal.
Et la casquette qui saigne est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui saigne.
Le multiplex.
Comme tous les vendredis, dans Roten Régal à 19h, on lance la journée de Ligue 1 avec nos correspondants en région. On lance donc la 32e journée avec Jean Baumel, le leader dans le Nord. Salut Djibo.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Captain. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut,
avec toi, on va parler de Metz, Lille ce soir 21h, mais également de Lens, Lorient dimanche 15h. Clément Brossard est avec nous, le Monégasque, la Côte d'Azur. Salut Clément.
Le soleil et tout ça. Et
salut,
tout
Clément.
Ça. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Captain.
Monaco-Dijon, dimanche 17h pour toi. Et Nice-Reims, dimanche 15h. Julien Landry est avec nous. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Salut Julien.
J'ai eu une longue période de mise au placard quand même.
Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé mon coco?
Ça allait avec ton
c'était
club.
C'était plus le frigo là, c'était le congélateur.
Ça allait avec ton club.
Pourtant t'avais battu Lille.
Et ouais, mais ouais. Les choix des chefs, des fois tu les comprends pas.
Non, mais là on voulait te rappeler parce que quand Der Zakarian va re-signer,
ouais.
On s'est dit allez, faut qu'il nous annonce des choses.
Il a sorti de champagne, Julien là. Plein de bonnes conférences de presse. Ah,
on va regagner en humour ce soir. Je suis pas sûr en information, mais en humour sûr.
Alors avec toi évidemment, Montpellier, Marseille, samedi 21h. On dira un mot également de Nîmes à Brest dimanche 15h. Et puis Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous.
Montpellier-Marseille est donc également pour toi. Et on va débuter par le leader, par Lille, Djibo. Est-ce que l'absence de Jonathan David peut coûter cher à Lille, selon toi?
Bah écoute, quand on voit ses stats, c'était plutôt intéressant. Hein. Sur les 12 derniers matchs, il a mis 8 buts quand même. Hein. Jonathan David, son total est de 10. On va pas rappeler le début de saison qui était raté. Hein. On rappelle ses plus gros transferts, 30 millions d'euros. Alors, grosse blessure quand même parce que on se souvient, ça aurait pu coûter un rouge à Gueye parce que il a une entorse avec rupture du ligament de la cheville droite. Alors, ce qui était assez étonnant, parce qu'on l'avait vu avec une grosse poche de glace durant la mi-temps, durant la deuxième période la semaine dernière au Parc des Princes, ce sont les propos de Christophe Galtier hier qui semblait vraiment confiant. Il parlait d'un retour éventuellement contre Lyon. Dire le 25 avril pour un match à 21h, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il le voit marcher normalement. Alors après, il le voit marcher, donc il disait que c'était plutôt bon signe. Franchement, il semblait confiant, donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt une bonne chose. Mais il va falloir faire sans lui quand même pendant deux matchs, voire trois. Lyon, ça me paraît un peu prématuré, mais pourquoi pas. Et la chance entre guillemets de Christophe Galtier, c'est que Bourak revient au bon moment, même s'il n'a pas marqué avec Lille, mais il a été très bon avec sa sélection lors de la trêve internationale.
Jérôme, l'absence peut peser?
Oui, elle va peser parce que Djibo te l'a dit, c'est quand même un homme qui était revenu en confiance, qui a montré des qualités, qui a marqué des buts, et pour un attaquant c'est quand même le plus important. Christophe Galtier lui fait très souvent confiance, donc oui, c'est un point noir, même s'ils ont des solutions de rechange, c'est un point noir. Après, pour le délai de la blessure, moi je suis, on peut pas être dans sa cheville dans tous les cas, mais je en termes d'arrachement des ligaments, je sais de quoi je parle, je l'ai eu assez souvent aux chevilles, et c'est vrai que le mot comme ça peut faire peur, les ligaments de la cheville arrachés, alors que non, pas du tout, c'est vraiment par rapport à la douleur, et quand tu arrives déjà à mettre le pied par terre, en général, ça va assez vite, la cicatrisation derrière, donc moi je serais pas étonné en effet qu'il y ait un petit mois d'arrêt seulement et qu'il arrive à reprendre, donc en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Parce que voilà, Lille a besoin d'avoir toutes ses armes pour lutter jusqu'au bout.
Oui, son absence se fera pas sentir aussi, Captain, s'il y a le réveil de Burak Yılmaz. Si on voit le Yılmaz de la sélection.
Oui, le réveil. Non, mais le réveil. Bon, Djibo va
réveil à Lille. Dire,
sa petite entrée contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France avait été plutôt
oui.
satisfaisante. Sa tournée avec l'équipe nationale a été triomphale. Je pense quand même qu'il y a des atouts. Si tu alignes une équipe avec Bamba, avec Yılmaz et avec Ikoné devant, avec Renato Sanchez, il me semble un tout petit peu dans le creux de la vague. Hein, je sais pas si.
Bon, il a été généreux, même, je trouve, contre le PSG. Après, il a joué un peu de latéral droit.
Quand on dit d'un joueur qu'il a été généreux, en général, c'est qu'il a été à côté de la plaque.
Il a
été plein de bonne volonté, mais il en a pas piqué une.
Non, mais nul, mais il s'est battu.
J'ai pas choisi le bon mot. Il s'est sacrifié pour jouer au poste de latéral droit, quand même. Bon.
Mais... Ah, ça, c'est comme ouais, c'est un match avec du faux rythme. Oui, dis-nous que c'est un match.
Oui, un match de merde.
Voilà. C'est pareil.
Bon, Djibo.
Je plaisante, Djibo.
Oui.
Je plaisante,
Djibo. Mais lui, il y a la cave.
Je plaisante. Ah,
bon, merci de ta générosité, Djibo.
Merci, Djibo.
On va donc passer à Monaco.
Et embrasse-moi.
La défense monégasque, est-ce que ce serait pas la nouvelle arme pour Monaco dans cette course au titre?
Ah bah oui, quand Dijon va en avoir besoin. Oui.
En tout cas, force est de constater, messieurs, qu'il y a une nette amélioration du secteur défensif à Monaco. Il y a un mois et demi, l'ASM jouait sa 26e journée de championnat contre le Paris Saint-Germain. Et à cette époque, Monaco avait déjà encaissé 37 buts, autant que Saint-Etienne, qui était 15e de Ligue 1. Alors ce match a été
c'est
le début
référence
d'une
maintenant.
D'une défense de fer. Exactement. C'est la défense de Monaco, la référence contre le PSG. Alors Monaco a enfin pris conscience, vraiment, depuis ce match au Parc, qu'il était capable de tenir une rigueur défensive sur l'ensemble d'une rencontre. Et depuis, ils ont enchaîné 7 clean sheets sur leurs 8 derniers matchs Ligue 1 plus Coupe de France. L'unique but encaissé depuis le 21 février correspond à la défaite 1-0 à Strasbourg, la seule de 2021. Aujourd'hui, Monaco est l'équipe qui concède le moins d'occasions contre elle dans les 5 grands championnats européens. Ce sont les stats. Le club de la Principauté a également retrouvé un gardien, Benjamin Lecomte, critiqué,
bah voilà.
Pas mal
décrié,
cible favorite, on peut le dire, de notre capitaine Larquet. Ouais, oui. Parfois à raison, c'est vrai.
Non. Mais il n'est pas revenu à un bon niveau ? Il n'est pas revenu à son niveau ?
Il est revenu, c'est vrai. Et le gardien était d'ailleurs en conférence de presse cet après-midi. Il a conscience qu'après sa fracture à la main, il lui a fallu du temps pour revenir. Il a beaucoup travaillé pour se remettre à niveau. Il est premier à la salle, par exemple, à l'entraînement. Et puis, il a surtout conscience que ce trop grand nombre de buts encaissés était ce qui éloignait le plus Monaco des équipes de tête. Alors maintenant que c'est réglé, ce problème de la défense, peut-être que les Monégas semblent jouer à armes égales avec les autres concurrents au titre.
Ah, c'est sûr que c'est dans tous les cas, quand tu as une bonne équipe, il n'y a pas que la défense, c'est un équilibre à trouver, et c'est pour ça que c'est important dans les analyses de match et tout ça. On peut toujours dire ah, c'est une équipe flamboyante. Monaco était le cas, prenait beaucoup de buts mais en marquait aussi beaucoup, se créait beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'il fallait trouver un juste milieu dans tous les cas, parce que prendre 2-3 buts par match comme ça a été le cas au moment,
si tu en marques 4 et oui, tu vas pas gagner beaucoup de matchs
des
erreurs individuelles en effet. Un gardien qui était en manque d'efficacité. Alors après, est-ce que c'était un problème de niveau ? Là, je suis d'accord avec Jean-Michel que par moment, ça laissait un petit peu à désirer, qu'il n'avait pas le rôle qu'il devait avoir. du moins à Monaco, pour être, se battre, même pas pour le titre, mais pour les places en Ligue des Champions, se devait d'avoir un gardien digne de ce nom. C'est le cas actuellement aussi, avec une défense et un milieu de terrain, parce qu'on peut parler des défenseurs, mais le travail de Tchouaméni et Fofana, franchement, c'est impressionnant.
Là, Tchouaméni est encore blessé, j'imagine. On en reparlera.
Il revient. Okay. Donc non, et puis même les joueurs de côté. Du moins, c'est un équilibre à trouver, et Monaco l'a trouvé très justement. En plus, ça n'empêche pas Monaco d'être vraiment assez spectaculaire et beau à voir jouer. Donc vraiment, encore une fois, et tous les feux sont ouverts. Et puis quand tu reçois le dernier, oui, qui est catastrophique, il n'y a pas de quoi.
Il n'y a pas de quoi avoir peur.
Non. Tu veux ajouter un mot sur Monaco, capitaine?
Non, simplement que le retour de Tchouaméni donne un petit peu raison peut-être à Christophe Galtier pour la cheville de David.
Effectivement, pour le retour des
sur la torche. Ouais, c'est vrai,
parce qu'on voit l'image, il l'avait prise volontiers, c'était un Islandais, un très bon joueur, ils ne passent pas leurs vacances ensemble.
Non. 19h10, messieurs, après cette belle expression de Captain Larquet, on y va pour le premier tour des stades, 4 infos, et vous me dites, Jean-Michel et Jérôme, ce que vous retenez. Marseille, pour le déplacement à Montpellier, est-ce qu'on a des infos sur la compo, Florent Germain?
Il y a des absents déjà, on le rappelle, hein, Rongier, Amavi, Nagatomo, Sakai. C'est la dernière minute. Sakai qui est blessé, qui ne s'est pas entraîné de la semaine et qui est donc forfait. Donc on devrait repartir sur un 3-4-3 comme contre Dijon, avec un retour de Tchaletatsar aux côtés d'Alvaro et de Balerdi en défense. Et l'incertitude, c'est concernant le poste de piston gauche. Est-ce qu'on remet Luis Enrique ou on relance Raoui? Pour le reste, a priori, pas de changement avec le trio Milik, Payet, Thauvin devant.
Et côté Montpellier, un retour important, Julien Landry.
Ouais, la bonne nouvelle pour Michel Derzakarian, c'est le retour de TJ Savagnier, qui était absent du côté de Angers dimanche dernier, qui aurait pu jouer en Coupe de France mercredi, mais aucun risque pris avec le meneur de jeu montpellierain, qui fera donc son retour demain soir à la Mosson au milieu de terrain, avec logiquement Jordan Ferry, même si lui a pris une grosse béquille du côté de Châteaubriand et qu'il a été ménagé pour la fin de semaine. Michel Derzakarian se montre confiant. Sinon, ça sera l'équipe habituelle, avec notamment Mollet, Delors, Laborde, Mavididi pour le quatuor offensif.
Montpellier-Marseille, je vous rappelle, demain 21h. Ce soir, 21h sur RMC, évidemment, Metz-Lille, la compo lilloise, les infos, Jean Baumel.
Ouais, bon, David forcément absent, puis aussi Jasicevic, Diallo suspendu. Au milieu de terrain, c'est la grande question, c'est de savoir ce que Sanchez sera titulaire. Je ne pense pas, parce que Soumaré avait été tellement bon contre Paris que c'est tentant de le remettre avec Benjamin André. La défense, on la connaît, Renildo, Botman Font, avec le retour important de Celik à droite, Maignan dans le but. Et puis devant, bah, on verra si Bourak sera associé à Ikoné et ou Ea, donc et Bamba bien sûr à gauche.
Dimanche 15h, Nice reçoit Reims, avec un joueur qui s'est réveillé, Clément Brossard.
Oui, Casper Dolberg. Alors Adrien Urcea a répété depuis des semaines qu'il avait retrouvé le sourire. Il a enfin retrouvé le sens du but face à Nantes le week-end dernier. Il n'avait plus marqué depuis le 25 octobre en Ligue 1. Ça pesait sur son moral. Ce doublé à la Beaujoire lui a fait du bien. Et pour avoir évoqué son cas avec Didier Digard cet après-midi, même si Dolberg paraît très froid d'apparence, il est très heureux depuis quelques temps, m'a confié le grand ami de Jérôme. Et le Danois devrait être titulaire face à Reims. Concernant Boudaoui et Attal, en revanche, il faudra encore attendre deux semaines pour les revoir.
On peut faire confiance à son expertise, Jérôme.
Ah ouais. Il l'a relancé. Hein.
Là, il faut suivre les multiplex de Rotten Regal pour comprendre évidemment que Didier Digard est un ami de Jérôme. Qu'est-ce qu'on retient de ce tour des stades, Jérôme?
Qu'est-ce qu'on retient? La compo lilloise. Parce que je pense que ça va se jouer là, le titre pour.
Ça joue ce soir?
Le turnover. Bah, pas forcément ce soir, mais le turnover mis en place très souvent par Christophe Galtier, le choix des hommes. En effet, je suis d'accord avec Djibo sur le fait que Soumaré a été énorme et la paire devrait être remise sur le terrain. Mais c'est toujours pareil, il y a de la concurrence. Est-ce que Sanchez, tu l'écartes totalement? Est-ce que tu relances Ouéa, tu vois, Arroyo, même si...
Là, il faut faire les bons choix, là dans ce sprint final.
Il ne peut pas se rater. Voilà.
Dans une seconde, faut-il prolonger Derzakarian à Montpellier? Que faire des joueurs prêtés à Marseille? On continue les débats du Multiplex Ligue 1, tout de suite.
RMC Rotten Régal, Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h14, toujours dans Rotten Régal, bien sûr, sur RMC avec Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet. Allez, on continue avec nos correspondants pour lancer ce multiplex et cette journée de championnat.
Exactement, il y aura le multiplex européen à 19h30, mais pour l'heure, on est toujours avec Jean Baumet, Julien Landry, Florent Germain et Clément Brossard pour lancer la 32e journée de Ligue 1. Petite parenthèse, vous avez des nouvelles de Nicolas Paolorsi?
de Big Ben Arfa et...
Je sais pas, on n'a plus de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles de Bordeaux non plus.
Là, je pense qu'il y a...
On vous avait prévenu, après le match contre Marseille, en général, ils sont en vacances.
Ah, c'est vrai.
La saison s'arrête s'ils sont invaincus contre Marseille.
Et Nico, il a arrêté sa saison à Lisbonne en septembre dernier.
En août. En fait, il n'a jamais retrouvé sa condition physique.
Il n'a jamais vraiment démarré, Nico.
Ça, je vous confirme. J'y étais, j'ai vu. Oh là là, le désastre.
Il a tout donné en 15 jours. Ce 16 mai.
Il a tout donné sur 15 jours, Nico.
Bon, on l'embrasse et on espère qu'un jour il revienne avec nous
l'année prochaine. Voilà.
Rendez-vous. S'ils sont en Ligue 1.
Oui. Ils sont pas encore maintenus.
Non, ça va quand même. Attendez.
Non, il leur manque une victoire. Bon, Gassé a dit
36 points.
Ah, ce sera pas ce week-end.
7 points d'avance sur le barragiste.
Ouais, ils sont comme Saint-Étienne.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, il leur manque.
Ils y vont.
Ah, mais tout le monde va pas pouvoir descendre. On peut pas descendre.
Oui, c'est Saint-Étienne-Bordeaux, là.
Ben oui, bien sûr.
C'est un jeu. Je pense qu'ils peuvent faire un bon 0-0, ceux-là.
Si même avec un match de la peur comme ça, on peut pas venir.
Ça donne envie.
Ah oui, un point chacun. Et hop, on est maintenant.
Alors, messieurs.
T'as raison, mon pauvre Jérôme.
Demain, c'est Montpellier-Marseille. Et.
Messieurs, et tout ça sur un faux rythme, Jean-Michel.
Ouais, bien sûr.
Avec beaucoup de générosité.
Avec des garçons généreux.
Avec de l'envie.
Alors, faut-il prolonger Michel Derzakarian à Montpellier? On pose cette question parce que c'est la tendance, Julien.
Oui, c'est même plutôt surprenant. Hein, tout semblait être réuni pour que Michel Derzakarian et Montpellier se séparent à la fin de l'année. Michel Derzakarian avait changé d'agent à l'intersaison en prenant des agents anglais pour essayer d'aller voir de l'extérieur. Laurent Nicolin pensait qu'après 4 ans, le cycle était terminé. Il voulait démarrer un nouveau cycle de 4 ans pour la venue dans le nouveau stade. Il y avait plein de noms qui avaient été évoqués. Et Bruno Genesio à une époque, Rémi Garde, Sabri Lamouchi, voire même le retour de Jean-Louis Gasset, Bernard Blacard. Plein de noms avaient été évoqués. Et puis depuis quelques semaines, finalement, Michel Derzakarian et Laurent Nicolin se sont rencontrés. Un premier rendez-vous pour savoir si les deux camps étaient d'accord pour travailler ensemble. Un deuxième rendez-vous où Michel Derzakarian a présenté un projet pour les années à venir. Et puis un rendez-vous hier entre Laurent Nicolin, Bruno Carotti et les agents de Michel Derzakarian. Preuve que les discussions avancent. Michel Derzakarian a rappelé qu'il voulait finir la saison le mieux possible. Mais oui, aujourd'hui, la possibilité de voir Michel Derzakarian rempilé pour un long bail du côté de Montpellier, la tendance la plus forte qui se présente. Il faut dire que le bilan de Derzakarian, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Qualifié en quart de finale de la Coupe de France, encore en lutte pour l'Europa League, qui amène Montpellier dans les 10 premières places depuis qu'il est en place à Montpellier. Voilà, bilan impeccable de Derzakarian. Il a réussi à valoriser aussi des joueurs. Rien à lui reprocher, donc c'est finalement presque logique que Derzakarian prolonge à Montpellier.
Ouais.
Ah, il faut qu'il s'aperçoive maintenant qu'ils n'ont rien à reprocher à Michel. Je pense
non,
que.
Non, mais c'était la fin d'un cycle, Jean-Michel.
Ils en sont convaincus.
4 ans.
Oui, mais enfin, tu viens de me citer, les éventuels successeurs. Je pense que il faut pas être grand clerc pour ne pas hésiter une seconde et continuer avec Michel Derzakarian. Si tu me cites que Rémi Garde, Genesio, qui tu m'as cité,
Jean-Louis Gasset, Bernard Blacard.
Ah ouais, ça c'est toi.
Tu continues avec Derzakarian, ça c'est sûr. Hein, oui.
Là, il y a des comiques en plus. Hein. Ah. Thierry Loret aussi, non?
Non, c'était pas prévu. Pourtant, ça aurait été une piste à moi.
Je pense que là, tu pouvais être. T'éclates et en conf de presse.
Il arrive à nous raconter qu'il se marre avec Derzakarian parfois, donc bon,
ça arrive. Ouais.
Bon.
Non, mais c'est vrai que moi, je rebondis là-dessus. C'est vrai que Jean-Michel a raison. Il fait un énorme boulot à Montpellier. Moi, souvent, je dis dans les clubs aujourd'hui de haut niveau, quand tu passes 3-4 ans dans un club qui est en fin de cycle.
Faut savoir lancer un nouveau cycle aussi.
Et Julien a raison de le dire. Après, le nouveau cycle, il peut aussi passer par le renouvellement d'effectifs. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont peut-être partir. Alors,
Ayrton, je pense qu'il en a plus fait qu'il n'en fera.
Ouais. Non, mais même, il y a des joueurs.
Laborde, Mollet, Mavididi, c'est des joueurs qui vont être.
Exactement, sollicités. Alors après, vu le contexte, est-ce qu'il y aura les sommes qui vont correspondre à. Il y a des joueurs en fin de contrat à Montpellier?
Non, les seuls en fin de contrat, c'est Daniel Congrès et Vitorino Hilton.
Ouais, bon, ça.
Encore. Donc Daniel Congrès va prolonger et Vitorino Hilton va intégrer le staff.
D'accord.
Ah, il va pas. Ah bon? C'est sûr, ça?
Ou il va prolonger.
Ah, parce qu'il voulait prolonger.
infernal, lui. Mais... T'as l'impression qu'il donne une info, on veut dire qu'il donne rien.
Ouais. Ouais, soit dans le staff, soit il prolonge.
Bon, bah, okay. Ouais, bah,
merci Julien.
Soit un centre de formation.
Merci Julien.
Je vais finir avec Nicolas. Voilà.
Le temps de parole est fini. Okay. Je sais pas pourquoi on t'a réintégré, là. Marseille, on y va.
Moi.
Que doit faire l'OM de ses joueurs prêtés avec option d'achat? Il y a une longue liste et ce sera un des chantiers du duo Sampaoli Longoria, hein, Flo.
Exactement. Bah, vous allez vous mettre dans la peau, justement, de Pablo Longoria ou de Sampaoli. On a Balerdi, qui sur le papier vaut 14 millions d'euros. Il est prêté par Dortmund. Lirola, 12 millions. Millions prêtés par la Fiorentina. Cuisance, ça n'a pas été tout à fait déterminé, mais on est aux alentours de 15 millions quand même. Et Encham, 5 millions d'euros. Je vous donne les infos rapidement. Sampaoli veut conserver Balerdi et Lirola.
J'ai un petit, petit malaise là.
Sur le Cuisance, 15 millions. Ouais. Sampaoli veut conserver Balerdi et Lirola. Ils sont en train de négocier avec les clubs respectifs pour faire baisser l'option d'achat, voire pourquoi pas envisager un deuxième prêt. Mais il a surtout un petit coup de cœur pour Balerdi. Il aime bien ce joueur, son anticipation, ses relances, sa grinta, même si tout reste à améliorer malgré tout, c'est un jeune joueur. Lirola également, ils aimeraient le conserver. Reste à savoir si il y aura évidemment les finances pour se faire. Votre avis, messieurs, je sais pas. Balerdi, Lirola, est-ce que on prolonge ou on
écoute,
prolonge
pas écoute.
Oui, mais en faisant ça, en prolongeant ces joueurs. Je ne vois pas comment tu renforces ton équipe là déjà.
Non, mais tu peux après dans ces clubs là et encore plus à Marseille et le contexte de cette année, du moins tout ce qui s'est passé, il peut y avoir un temps d'adaptation plus ou moins long. C'est vrai que Balerdi, moi je fais confiance aux entraîneurs, c'est pas le premier. Hein.
Villas-Boas l'aimait bien
exactement,
aussi. Il a laissé moins de temps de jeu.
Ouais.
Alors que Sampaoli, depuis qu'il est là, c'est 4 matchs, 4 titularisations. Il y a aucun doute.
Il faut aussi faire confiance au coach qui les voit au quotidien. Donc s'il en parle comme ça et s'il a envie de prolonger l'aventure, c'est qu'il estime. Alors après, il peut se tromper, mais il dénote pas dans cet effectif là et dans l'équipe. Moi, c'est pas surprenant de voir Balerdi, pourquoi pas encore un an de plus à l'OM. Le montant, c'est un risque aussi parce qu'il est il est un petit peu élevé quand même vu
ils
les
ils iront jamais à mettre 14 millions d'euros.
Non, mais c'est ça. Après, l'idéal pour eux, ça serait d'essayer de ravoir un prêt au moins sur une année, et ça c'est possible de le faire, on le sait. Lirola, bah oui, ça apporte de la fraîcheur côté droit. On était tellement habitué à voir Sakai, comment celui qui est parti au Bayern,
Bounassar.
Voilà, d'un moment il faut renouveler aussi. Lirola a montré des choses intéressantes quand il est là, donc c'est pas dramatique, de du moins loin de là, de le garder. Voilà, mais bon, il en faut d'autres.
Mais tout ça, évidemment, c'est une enveloppe globale parce qu'il y aura énormément de mouvements cet été.
Ben oui.
Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas non plus mettre une vingtaine de millions d'euros sur ces deux joueurs. Donc ça va négocier dur parce que on le dit sérieusement, il faudra imaginer 8-10 arrivées et peut-être autant de départs en comptant les fins de contrat. C'est un vrai chantier, une vraie année zéro la saison prochaine.
Après, Flo, s'ils arrivent pas à mettre Lirola, tu me dis que c'est 12 millions, c'est ça?
Oui, alors après c'est sur le papier.
Oui, sur le papier, sur le papier.
C'est le montant de l'option d'achat. Ouais.
S'ils n'arrivent pas à tomber d'accord, même à 10 ou à 8, j'en sais rien. Là, ça peut être inquiétant pour structurer, du moins reconstruire un effectif.
19h23, le deuxième tour des stades. On y va pour terminer ce multiplex. On va donner la compo ou du moins les infos du groupe Monégasque qui reçoit Dijon dimanche à 17h, Clément Brossard.
Avec l'infirmerie qui continue de se vider à Monaco après Aurélien Tchouaméni cette semaine en Coupe de France, c'est au tour de Ruben Aguilar et de Sofiane Diop de revenir dans le groupe. Le premier avait contracté le Covid, le second est remis d'une fracture au cinquième métacarpe de la main droite. Et puis concernant la compo face à Dijon, Badiachil pourrait se retrouver sur le banc aux dépens de Dizazi parce que sa performance en Coupe de France contre Metz n'a pas plu à Kovac. Tchouaméni devrait donc retrouver une place de titulaire, tout comme Ben Yedder, double buteur la semaine dernière face à Metz.
La course à l'Europe et à la cinquième place lance Jean Baumel qui est touché par le Covid avant la réception de Lorient dimanche à 15h.
Exactement, Jean-Louis. 4 joueurs et des joueurs importants. Hein. Badé notamment, Seko Fofana, Mauricio et Ganago qui sont pas souvent titulaires. Donc voilà, il y a eu d'autres tests de fait. Pas de cas supplémentaires et on croise encore les doigts du côté de Lens qui a encore eu des tests effectués aujourd'hui. Autre mauvaise nouvelle pour Lens, c'est Sotoka touché au mollet. Et ça sera peut-être pas seulement le match contre Lorient, ça pourrait être plusieurs matchs pour l'attaquant lensois. Donc ça fait quand même 3 joueurs
très important. Donc ça sera peut-être pas si évident que ça pour les Lensois face à Lorient. On rappelle qu'il reste sur 10 matchs sans défaite.
La course au maintien cette fois, des nouvelles du barragiste Nîmes avant ce déplacement à Brest, Julien Landry.
Ouais, match à 6 points, un peu comme la semaine dernière contre Saint-Etienne. Les Nîmois qui ont l'occasion de remettre peut-être Brest dans la course au maintien. Ils devront faire sans Anthony Briançon, est sorti blessé contre Saint-Etienne, victime d'une rechute, mais peut-être moins grave que prévu. Lucado, lui aussi, qui est sorti, sera apte pour tenir sa place, même si Lamine Fomba va faire son retour. Le milieu de terrain qui était suspendu, on devrait approcher la même équipe qui s'était imposée à Lille il y a 15 jours.
Et puis à Marseille, pour le déplacement à Montpellier, sans doute peu de chance de voir Valère Germain qui joue très peu avec son Paoli.
Oui, ça vous fera peut-être réagir, mais c'est vrai que c'est pas qu'il joue très peu, c'est qu'il a joué 0 minute depuis que Rodolphe Sampaoli.
Très peu.
A pris ses fonctions. Non, mais c'est assez dingue. Valère Germain n'a pas joué depuis le 20 février.
Il est généreux, ce garçon.
Depuis le 20 février, Sampaoli, c'est clair, le message, il ne compte pas sur lui, il est en fin de contrat, il partira cet été. Alors, le joueur est forcément vexé, mais assez fataliste, il continue de bosser, mais a priori, il aura encore très très peu de temps de jeu, voire 0 minute de temps de jeu demain à Montpellier.
Qu'est-ce qu'on retient de ce tour des stades?
Le match Brest-Nîmes.
Ah oui?
Ouais, Brest-Nîmes, la compagnie nîmoise, parce qu'en effet, c'est un match à 6 points pour eux. S'ils venaient à perdre, je pense que ça va vraiment se compliquer pour les Nîmois.
Jean-Louis, très surpris que tu retiennes Brest-Nîmes.
Non, en fait, je me suis demandé s'il avait bien écouté.
Non.
J'étais pas sûr qu'il arrive à nous sortir un peu.
Ouais, il a bien écouté, il m'a choisi.
Bah oui.
Quand il n'a pas d'idée, il pense à Julien.
Je peux vous dire que du côté de Brest, en tout cas, c'est le match le plus important.
Ah oui, on rappelle que c'est ton deuxième club de cœur. Tu nous en parles en permanence de Brest.
On va pas demander à Jérôme la compo nîmoise quand même.
Non, l'absence de Briançon, je pense qu'il l'a pas, par exemple.
Non, Briançon, bon, c'est un coup dur, mais bon.
Allez, merci. Merci Jean-Paul, Julien Landry, Germain Clément,
tous
les matchs de la 32e journée de Ligue 1 sur RMC en direct.
Ils doivent te détester, les joueurs.
Bah ouais, non, mais moi Blackard me manque. Hein. On s'éclatait tellement à l'entendre.
Ouais. Allez, le multiplex européen, les retrouvailles Roten, Polo Breitner dans un instant et tout sur le Classico avec Paul Armel. A tout de suite.
RMC, Roten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Roten.
19h30, allez, la dernière demi-heure de Roten Régal sur RMC, bien sûr. Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larquet m'accompagne comme d'habitude. Allez,
le quiz tout à l'heure. 32-16 pour vous maintenant. Inscrire. Et puis le cadeau qui peut tomber, il n'est toujours pas tombé dans Roten Régal. T'as dit que ça allait tomber, donc préparez-vous.
Ça va pas tarder.
Dès que vous entendez le signal sonore avec un bruit,
je pense que ça va tomber quand Polo va parler.
Ah, je sais pas. Vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès que vous entendez le signal sonore. Le foot européen, on y va.
RMC, Roten Régal.
Européen.
On va commencer par l'homme de la semaine.
Alors attends, d'abord on accueille Fred Hermel. Je sais pas si c'était lui l'homme de la semaine. Fred Hermel, notre spécialiste du foot espagnol.
Là, il va s'incliner.
Salut Fred.
Il s'en fout.
Moi, je suis l'homme de l'année.
Oui.
Au moins. Hola, chicos. Attends.
Il est dans la lecture en ce moment.
Non. Mais comme je suis dans l'émission de Monsieur Melon, il faut que je m'habille en melon.
C'est vrai.
C'est
pour ça que t'es appelé très souvent.
Ben voilà. C'est pour ça que je pense que j'ai une idée de moi-même qui est assez proche de l'idée que tu te fais de toi-même.
Non, mais déjà, t'as une tête qui a la forme du melon.
Tant que j'ai pas la couleur, ça va, c'est bon signe.
Demain le Classico, Real Barça, on va y revenir en longueur, mais l'homme de la semaine.
Vert, t'imagines quand t'es vert, c'est que t'es pas en forme.
L'homme de la semaine, c'est Polo Breitner, notre spécialiste du foot allemand. Salut Polo.
Bonsoir.
Salut Polo. Comment ça va, Polo?
Tout le monde.
Comment ça va? Tu te remets?
Oh bah il s'est bien remis depuis deux jours.
Le directeur de l'Institut National de la Consommation et des Statistiques, il est là.
Mais là c'est plus de l'amour, c'est de la rage là cette semaine.
Ah non.
Pour qui? De la part de qui?
Vous pouvez plus vous passer de moi, mais apparemment. Je constate aussi la déformation de ce que j'ai dit, en tout cas, apparemment.
Ah, qu'est-ce qui a été déformé? L'anomalie statistique?
L'anomalie statistique, en fait, vous n'avez pas bien compris. Certains font exprès de ne pas bien comprendre.
Tu as quand même dit que sur 100 matchs, 99, le Bayern garde.
Bah oui,
parce que moi, je l'écoute. Hein, donc,
c'est vrai.
Bah oui, c'est exactement ça.
C'est ça qu'on te reproche.
Est-ce qu'on n'a pas compris?
Après nous avoir bassinés avec l'anomalie, maintenant il nous prend pour des idiots. C'est-à-dire que ça, c'est sans fin, tu vois, on n'a pas compris.
Non, mais
vas-y,
Polo. J'ai envie de me coucher plus intelligent,
c'est
qu'on a moins compris.
Mais j'avais, bah, apparemment, non, non, l'anomalie statistique, vous n'avez pas bien compris ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Parce que les gens, ils commencent à dire, bon, ça veut dire que Bayern va gagner au match retour, on pas bien, ils déforment complètement ce que j'ai dit, et c'est pas du tout ça.
Non, alors ceux qui disent ça, c'est de dire, deux anomalies statistiques ne peuvent pas arriver.
Ben oui.
Donc, du coup, au retour, le Bayern va gagner.
Mais non!
Bah, donc, c'était pas une anomalie statistique.
Mais si! Parce que si, il se passe exactement la même chose.
Ah, mais c'est!
Ça fera
c'est
deux dingue, anomalies
ça.
Statistiques.
C'est fou, ça. Mais je vois surtout, mais déjà, alors, ce que je vais dire. Parce que, et c'est là où je pense ne pas avoir complètement tort sur ce que j'ai dit, c'est que j'ai reçu tellement de messages en privé, y compris de la cinquième colonne d'RMC, y compris de la concurrence qui m'envoie en disant « Polo, bon, t'as compris, et merci d'avoir dit ce que beaucoup de personnes pensent, mais apparemment, la pensée
que des supporters du PSG sur RMC, c'est pour ça qu'il y avait ce raisonnement ?»
Ah non, je pense pas qu'il y ait que des supporters du PSG, mais en tout cas de la France, il y en a beaucoup. Mais le en plus quand j'entends que je suis, que moi c'est mon Bayern, alors que je supporte l'équipe qui va rencontrer le Bayern de Munich ce week-end, donc c'est quand même un petit peu spécial et c'est une façon de détourner ce que j'ai dit.
Bon, très bien. Jérôme, tu veux dire un truc à Polo là-dessus ou on enchaîne sur l'actu du week-end?
Non, bon, on a dit ce qu'on avait.
Mais moi, je remercie Kevin Diaz d'avoir compris ce que j'ai dit quand même.
Bah ça c'est l'homme des statistiques, oui. Ça,
et
c'est...
merci à Daniel aussi d'avoir compris ce que j'ai dit.
Oui. Ouais.
Non, mais attends,
tu peux les remercier.
Moi, j'ai compris ce que t'as dit, mais je suis pas d'accord.
Non, je suis pas sûr.
Ah si.
Non, mais si, parce que en fait,
la
moi...
façon de détourner. Ce
non, mais c'est
dit,
pas une façon de détourner, c'est que Polo.
De dire par exemple que je défends ma boutique, déjà, ça permet de décrédibiliser le discours du mec qui est en face
donc,
de
moi. Mais
je remercie quand même Roland d'avoir dit que je suis compétent.
J'ai expliqué un truc. Moi, je vais fêter mes 20 ans RMC en juillet. Ça fait 20 ans qu'on me dit que je défends ma boutique, et je le dis. Je défends ma boutique.
C'est vrai. C'est vrai.
Mais on n'a pas dit ça.
C'est plus les statistiques. Et on
si,
sait.
Quelqu'un qui commence un discours en disant Polo défend sa boutique. Déjà, il décrit tout le discours que le gars a dit.
Non, donc, mais ça, moi, mais qui a dit ça ici là? Moi, j'ai jamais dit ça. Hein.
Ah bon, mon cher Jérôme.
Moi, ah, Jérôme,
que tu défendais le football allemand.
Que je défendais ma boutique. Bah, je rappelle qu'il y a juste un article de la Süddeutsche qui a encore parlé de matchs absurdes.
D'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en Allemagne, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité, Polo, je vais te dire, et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ces analyses statistiques ou de ce que tu veux, c'est que déjà aux statistiques tu fais dire ce que tu as envie de dire, mais un match de foot ne se gagne pas avec les statistiques, et ça s'est vérifié à diverses reprises. Et l'expected goals le grand truc à la mode qui te dit que dans telle situation tu dois marquer à 100%. Hier, je l'ai démonté ce truc-là, parce que ils te prennent juste l'endroit où t'es sur le terrain, et là ils analysent, ils regardent même pas quel joueur tire, parce que entre Marquinhos, Cavani, Paoletta et tout ça, dans une situation là, c'est pas les mêmes qualités techniques déjà, dans un sens. Et après, il y a aussi la qualité du contrôle et la vision que tu as sur le terrain à ce moment-là, qui est pas pris en compte avec les expected goals. Donc le problème, c'est que ça, pour moi, c'est de la gnognotte, et que à l'arrivée, le nombre de frappes, ce que t'as pu dire, hein, qui est réel, en effet,
On parle pas de 5-6 frappes et tout ça, on parle de plus de 30. Un milieu de terrain se fait défoncer de la première à la 90e minute, quand il se fait prendre sur les côtés dans tous les sens, et qu'on me parle d'exploit,
mais ce qui est la réalité.
Désolé, ce n'est pas un exploit. Ce match est un braquage.
Mais non,
mais ce qui arrive,
c'est de pas être d'accord.
En Corée du Nord, elle a emporté en 66. Contre l'Italie en Coupe du Monde.
Mais tu peux pas comparer ces matchs-là, Polo. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un match de Coupe d'Europe. Alors après, c'est pas encore une fois dire nous, on les a joués avec Jean-Michel et on sait ce que c'est. Mais le problème, c'est que ça a ses limites aussi. Quand tu as pas vécu ça, et que quand tu as pas vécu des matchs de Coupe d'Europe, quel que le soit, avec n'importe quelle équipe qui a beau avoir les meilleurs joueurs du monde et la bonne maîtrise, tu sais aujourd'hui que quand tu vas jouer au Bayern Munich, qui est la meilleure équipe du monde, elle a le titre pour ça. C'est que tu vas souffrir au bout d'un moment. Et c'est pas parce que tu souffres que d'un seul coup, c'est un braquage quand tu gagnes. Quand tu marques 3 buts à l'extérieur et que tu te crées 6 ou 7 situations nettes de marquer des buts, on peut pas me dire que c'est un braquage. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
Alors, encore une fois, on a le droit de pas être d'accord. Voilà. Et on a le droit d'essayer de convaincre l'autre. Et si on n'y arrive pas, bah, c'est la vie, c'est pas grave. On
fait
la chose. Et on n'est pas obligé de dicter, voilà. On n'est pas obligé de faire en sorte qu'à la fin, tout le monde pense
mais exactement. Mais chacun, c'est le débat. C'est la force d'un débat.
Exactement. Alors, revenons au week-end, aux infos. Fred Souris, mais on va quand même commencer par les infos bavaroises.
Non,
on n'a pas donné les infos du Bayern. Au niveau infirmerie, Polo, avant ce match contre l'Union Berlin.
Catastrophe.
Vas-y.
En fait, après la rencontre, le journal titulaire avait sorti son numéro et avait parlé de, comme les Allemands ont perdu lors de rencontres évidemment cette semaine, avait parlé, tu vois, qu'en fait, il restait plus que l'espoir, le principe de l'espoir. Et ce qui est marrant, c'est que ils sont très un espoir juvénile entre guillemets pour le Borussia Dortmund, mais en fait, on a l'impression qu'il y a une logique de fatalité du côté du Bayern Munich. Qui lui, justement sur Twitter, envoie des messages très positifs pour le match retour. Mais qu'est-ce qui se passe? Lucas Hernandez n'est pas là, sera blessé encore pour ce week-end. Yvon Goretzka, on le sait, est très très douteux pour le match retour. Ils ont perdu encore, on ne sait pas qui va être au poste d'arrière-gauche, par exemple, ce week-end contre l'Union Berlin, puisqu'Alfonso Davies est blessé et suspendu aussi. Donc on pense que ça va être Bounassar. Au milieu de terrain, il n'y a plus grand monde, on va peut-être rappeler Ravi Martinez. Zule, évidemment, est suspendu. Donc en fait, ça fait Lewandowski, Gnabry, Goretzka qui n'est pas là, qui me manque-t-il déjà tellement il y en a.
Hernandez,
Zule, etc.
Ils
font que Roca, l'espagnol, qui est qui est pas bon du tout en plus. Il n'est pas opérationnel. Tolisso évidemment est blessé de long terme. Ça commence à faire beaucoup et surtout il y a un Bayern qui s'engueule, j'ai envie de dire, entre eux. C'est-à-dire que il y a des tensions qui existent depuis différentes semaines et qui commencent à réapparaître évidemment, et souvent ça réapparaît lorsque tu prends une défaite, lorsque tu perds, et officiellement
comme
voilà,
quoi, comme
Salimitsic et Flick, évidemment ça date depuis longtemps, et là ben bien sûr c'est officiel que les deux ne peuvent pas, on va dire, se blairer, ou tout du moins que c'est très compliqué entre deux, si bien que Karl-Heinz Rummenigge a décidé de siffler la fin de la récréation, c'est plus possible, mais quand même, quand Hansi Flick dit que l'effectif l'année dernière était qualitativement supérieur à celui de cette année, bon ben directement tu vises Hansi Flick. Tu as aussi, je rappelle, on est en train de régler son cas à Boateng qui donc est officiellement sur le départ, y compris le Bayern Munich l'a officialisé, mais vous avez pendant la trêve internationale Uli Hoeness qui était qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps parce qu'il a évidemment pris du recul dans le club, qui avait été consultant sur la chaîne RTL pour la trêve internationale, et on lui avait demandé est-ce qu'il faut rappeler quels sont les 23 utiles pour l'Euro. Il dit non Jérôme Boateng on n'a pas besoin, et vous avez Hansi Flick en conf de presse qui raconte quand bah écoute, lorsqu'on est au Bayern, en général, on défend ses joueurs. Donc tout ça fait que le Bayern Munich, en ce moment, c'est très très compliqué. Il y a évidemment des problèmes de liquidité financière. Hein, c'est l'une des raisons pourquoi on peut pas faire ce qu'on veut, en tout cas pour l'année prochaine, au Bayern Munich. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est que les joueurs sont fatigués.
Et comme tout le monde,
ça, ouais, malheureusement, le contexte.
Et je pense que ça arrive avec le contexte au très très mauvais moment.
T'as oublié un blessé de ce match contre le PSG.
Qui ça?
L'arbitre du Classico. C'est-à-dire que et le Mateusz, Antonio Mateusz, l'arbitre, il a été très bon d'ailleurs. Hein, l'arbitre
très,
du
très
match.
Bon. Excellent.
Il est souvent très bon.
J'ai toujours trouvé excellent.
Il est toujours très bon parce que
il laisse jouer tout.
Il laisse jouer. Il discute avec les joueurs, mais il se fait respecter tout le temps.
Non, mais c'est ça le plus important. C'est la discussion avec les joueurs et comment les joueurs.
Mais ils savent qu'il faut pas aller trop loin avec lui quand même.
Il part, mais il est forfait pour le Classico.
Et il s'est blessé pendant le match. A priori, il a une blessure musculaire. Donc non, mais c'est-à-dire que.
Mais quand on vous dit qu'il faisait très froid, vous allez rigoler, vous, avec les doudounes.
Mais ça se trouve, c'est ça, d'ailleurs, les petites blessures.
Ça
se trouve, les petites blessures musculaires qui sont apparues, c'est parce qu'ils ne sont pas échauffés comme ils
faisaient. Exactement.
Jérôme, c'est pas
ça. Et donc, il sera absent pour le Classico de demain. Et comme ça, on peut faire la transition.
C'est la langue.
Oui, c'est claquer la langue, Jérôme.
Non, mais Polo a raison
aussi, d'ailleurs.
Ah, bah voilà. Gagnez maintenant votre place pour la finale de la Ligue des Champions.
Envoyez foot par SMS au 732-16. Foot au 732-16.
C'est parti, 19h42. Vous avez jusqu'à 20h02 pour envoyer foot par SMS au 732-16 pour tenter de gagner vos places pour la finale de la Ligue des Champions. Alors, on revient sur le Classico, Fred. Donc, demain, Real Barça à Bad de Bebas, au centre d'entraînement du Real. 21h, ce sera en intégralité sur RMC. Bien sûr, en plus de la Ligue 1 de Montpellier-Marseille. Bon, alors, les infos, la veille de match.
Alors, contrairement à ce que dit Jürgen Klopp, c'est pas le stade d'entraînement du Real, c'est le stade de l'équipe B qui peut. Qui,
oui, c'est ça.
Voilà, ouais. C'est un vrai stade.
Oui, 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 bien sûr.
Non, non, mais on dit ça parce que, et on va enchaîner, c'est un classico de gentleman entre le Barça et l'Atlético. Rappelez-vous, les saillies énormes.
Entre le Barça et le Real.
Qu'est-ce que j'ai dit? Entre le Barça et le Real.
Ça sent pas un bon week-end, ça.
Je suis tellement obsédé par l'Atlético que voilà,
ouais, ça vient. C'est ça, ouais.
Ça, c'est mon club de cœur.
Oui, oui.
Et donc, des amabilités entre Benzema et Messi, des amabilités entre Koeman et Zidane. Koeman qui a répondu à Klopp, qui disait que, comme ils se sont pris, ils se sont fait balader, ouais. Ils ont perdu 3-1, qui a dit, ouais, mais on était dans un stade d'entraînement et tout ça. Enfin, comme si, ouais, tu vois, enfin, je veux dire, c'était des excuses pas chères pour un petit entraîneur. Parce que,
mais pourquoi c'est Koeman qui répond à Klopp?
Bah parce qu'on a posé la question en conférence de presse à Koeman ce qu'il pensait, et Koeman a dit
mais
le Real Madrid joue où il veut, c'est un vrai stade, la pelouse elle est exactement quasiment au centimètre
la même
distance qu'à Bernabeu, donc c'était une mauvaise excuse. Donc voilà, quand on se rappelle les saillies qu'il y a eu entre Mourinho et Guardiola, en Espagne et Guardiola à l'époque, c'est bien, on n'est quand même pas dans une période pour faire du n'importe quoi. Voilà les infos. Bah, les deux stars de ce classico, finalement, sont pas celles qu'on attendait.
Ah, oui. Ils sont pas là. Bah, Ramos n'est pas là.
Non. Mais c'est-à-dire que.
Alors, c'est qui?
C'est Vinicius et Dembélé.
Ah oui.
D'un côté, c'est Vinicius qui est le héros, entre guillemets, du match contre Liverpool, puisqu'il a mis un doublé, premier but, deuxième but, dernier but, voilà, magnifique. Et de l'autre côté, Ousmane Dembélé, qui est le meilleur joueur du Barça depuis des semaines. Donc voilà, ce sont deux invités surprises en tête d'affiche, même si les deux grandes stars, on va dire la vérité, sont d'un côté Karim Benzema, de l'autre Lionel Messi. Au niveau des absents, Hazard pas convoqué.
Ouais.
Alors, il s'entraîne, mais Zizou ne veut pas prendre de risque avec lui, donc c'est ce qu'on appelle un choix de l'entraîneur. Hein. Pas de Ramos, pas de Varane, qui a toujours le Covid. Pas de Carvajal, toujours blessé. Et du côté du Barça, Sergi Roberto et Piqué, qui étaient blessés, font partie du groupe.
Ça m'étonnera qu'ils jouent.
Voilà, ça serait. Non, ils seront pas titulaires.
Oui.
Ils seront pas titulaires.
C'est le Barça qui paraît qu'un avantage, non? Avec le calendrier, le Real qui a joué en milieu de semaine, le Barça sur la dynamique.
Oui, mais la tendance, et je vais passer la balle à Jérôme, tendance, le Real, ils sont remontés comme des coucous, après le très bon match contre Liverpool, alors que le Barça a fait un très mauvais match contre Valladolid, c'était lundi soir pendant l'after.
Gagné, mais c'était dur.
But de Dembélé à la 92e. Donc la tendance, physiquement, le Real a montré qu'il était bien. Mais bon, sincèrement,
c'est ça.
Ce que je dis là, le contexte dans un Real Madrid-Barcelone, ça compte quasiment jamais.
Oui, c'était tellement des matchs à part, tu l'as dit.
Il y a quand même eu le match aller où le Real avait mis quand même la main sur les rencontres, non?
Le match aller, c'est une très belle victoire avec beaucoup de domination de la part du Real, avec un but extérieur du pied fabuleux de Luka Modric. Donc, mais ça, on a vraiment le sentiment que ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, compte pas dans un classico. Tellement c'est un match en deux.
Ouais, et puis il y a des choses qui se sont passées depuis ce match aller, en effet, et Barcelone est un autre niveau, mais aussi le niveau du Real est très bon. On l'a vu avec cette victoire contre Liverpool. La série, elle est très bonne. Ils savent très bien aussi que déjà le contexte, ce classico et l'importance de le gagner par rapport à la suprématie, mais surtout par rapport au classement.
Ah oui.
Barça
deuxième, Real troisième.
Ouais, c'est
mais
difficile.
Il faut pas oublier quelque chose. Il y a quand même un leader qui s'appelle l'Atlético. Qui est devant.
Bien sûr, mais on a quand même l'impression que le champion, il est.
Ce sera le vainqueur de demain.
Peut-être que le vainqueur de demain aura pris une option intéressante quand même.
Ça, c'est vrai. Parce que le Barça. Alors après, ce sont deux entraîneurs qui ont été vilipendés, Zidane même menacé pendant toute la saison. Et ben, tous les deux peuvent faire un doublé. Le Real, la Ligue des Champions, la Liga. Et le Barça, la Coupe du Roi.
Merci Fred.
Merci
Polo également. Bravo. En Allemagne.
Salut Polo.
À la semaine prochaine, Polo.
Ah oui, bien sûr.
Alors là,
on t'attend mardi soir.
Moi, je suis remonté comme un coucou.
On a vu. Merci Polo, merci Fred. Dans un instant,
Le quiz.
L'affrontement. Allez. Le vrai affrontement. Voilà. Il y en a un sur du débat à 18h30. Mais,
mais celui-là,
c'est maintenant.
C'est celui-là qu'on le plie.
À tout de suite.
RMC. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
Allez, 19h49, toujours dans Roten Régal, les 10 dernières minutes. Et les 10 dernières minutes, c'est l'heure du quiz, Jean-Louis.
Alors juste avant quand même, je vous rappelle qu'on est toujours dans la période pour envoyer un SMS en envoyant foot et en l'envoyant au 732-16 pour gagner vos places pour la finale de la Ligue des Champions. Et je vous rappelle que le stade soit rempli ou non, vous aurez accès au stade. Donc c'est vraiment un cadeau exceptionnel. Et en plus, le vol et l'hébergement à Istanbul. Donc envoyez foot par SMS au 732-16.
Oui. On aura l'occasion de nous croiser.
Ah, tu commandes la finale? Je sais pas, j'ai pas l'info. Moi.
Tu veux que ça soit qui?
Oui, avec Dimeco.
Ouais, mon adjoint.
Jean-Michel Larquet. Ouais. Il revient, un comeback au commentaire.
Alors, mais déjà, pour le faire revenir tous les jours à la radio, on va pas le refaire venir en télé quand même, non?
Bah, pourquoi pas?
Non, non, je pense que 90 minutes, 95 minutes, il tiendrait pas.
Allez, on y va, le quiz.
RMC,
Roten Régal. Oh là là, on n'a pas fait une triche en plus.
Et l'autre qui me chambre là.
Le quiz.
Avec vous, Jérôme et Captain, Karim et Nordine. Salut Karim.
Salut Karim.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Bah, très bien.
Ça va, on
équipe
est en forme.
Équipe Roten ou équipe Larquet?
Équipe Larquet quand même, Jean-Michel Larquet, c'est une référence.
Très bien. Nordine,
PSG,
salut.
Je suis pas sûr que ce soit une référence.
Bonsoir.
Hein. Équipe avec Jérôme Roten.
Allez, Jérôme. Salut Nordine. Gauche, à l'ancienne.
Voilà. T'es un habitué du parc?
Bah ouais, à l'époque Jérôme, ouais.
Tu l'as vu faire ses tours de stade à la fin des matchs? Ouais, avec son petit Lamar, là?
Surtout les centres à GG, quoi.
Il le voyait très près, il le voyait quand il s'est chauffé pendant le match.
J'ai été fan du pied gauche. Jérôme
s'est chauffé. Jérôme s'est chauffé pendant le match.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, il était remplaçant. Donc Nordine le voyait de très près.
Non, il
n'a jamais été remplaçant.
Exactement, mais c'est vrai, très peu. Merci Nordine.
Allez, on y va.
Avec plaisir.
Des questions d'actu et des questions autour de la Ligue 1, autour de Metz-Lille ce soir. On y va. Qui a dit? Question suivante. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Galtier.
Non. Un entraîneur tendu.
Oxeas, Der Zakarian.
Non, c'est à l'étranger que ça se passe.
Zidane.
Flic.
Oui, Flic, Jean-Michel.
Flic.
1-0. C'est presque autant tendu Flic que Polo. Non, quand même pas. Question sur la Ligue 1. Alors, vous avez, j'imagine, le classement des buteurs en tête. Mbappé est premier, Ben Yedder est deuxième. Et ensuite, il y a trois joueurs. Il y a Depay. Et qui sont les deux autres?
Boulaya.
Non. Boulaya. Nordine.
Bien joué, Nordine.
Yeah. Et
Gouiri.
Non, non, pas de paille, pas Gouiri. Enfin, si, de paille, mais c'est pas lui qu'on cherche. Je voulais donner celui-là.
Ouais,
non. Bien. Quelqu'un qui arrive.
Folland.
Oui, Jérôme, Folland, bien joué. Ça fait 2-1 pour l'équipe Roten.
T'as joué.
Eh ouais.
Eh oui.
Ah, il l'avait pas travaillé, celle-là, Jean-Michel.
Non, il l'a pas vu arriver.
Non, sur la fiche, c'était pas marqué.
Qui a dit aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est inqualifiable. Condamné par le club. Et par les supporters qui se sont excusés.
Longoria.
Non.
Puel.
Oui, Claude Puel, Jérôme, bien joué.
Oh là là, même sur Saint-Étienne, je le prends. Alors,
oui, il parlait de l'affaire Bouanga, puisqu'il y a une vidéo de ses supporters avec des insultes racistes dedans.
Ouais.
Et donc tout le monde a condamné ça, et les supporters sont même excusés. En tout cas, ils sont désolidarisés et excusés. Normal. Revenons à mon petit Metz-Lille de ce soir. Est-ce que vous pouvez me donner un Messin dont le nom commence par un B?
Boulaya.
Ah oui, ça va vite là. Boulaya, 4-1.
Je l'ai donné tout à l'heure.
Et un Lillois dont le nom commence par un S.
Soumaré.
Ah, Soumaré, Captain.
Bah, tiens, on l'a dit tout à l'heure aussi.
Et oui, on l'a dit.
Et Sanchez aussi. Ça fait 4-2 pour l'équipe.
Attends, Karim.
4-2, oui.
Karim,
tout
va bien?
Tout va bien, mais ça répond vite, hein. Ils sont forts.
Ça va vite. Attention, qui a dit aujourd'hui des tensions? Bon, si vous appelez ça des tensions, oui, enfin bon, c'est la vie d'un vestiaire.
C'est.
Galtier.
Berthe. Mais non, à Nantes.
Oui.
Comboiré.
Ouais, c'est Nordine qui l'a dit avant.
Ouais.
C'est Nordine,
ouais. Non, j'ai dit à Nantes, ça va,
oui,
c'est bon.
Jean-Michel, j'ai une passe D.
Je suis désolé, ça aurait pu être Boko Siodo. Écoute.
Ne dis pas à Nantes, laisse-le.
Attends.
Ah ouais,
5-2.
On a failli dire De Nouex aussi.
5-2, alors Christophe Cessieux.
5-2,
il a quasiment cassé le décor.
Alors attention, il a failli tomber. Et ça m'inquiète. Ouais,
Pierre Richard vient d'entrer.
Parce que là, s'il tombe, vu l'âge qu'il a, on quitte l'antenne.
Bon,
là, on va le relever.
Non au quiz. 5-2 pour l'équipe Roten. Autour de Metz-Lille, alors revenons au dernier Metz-Lille. Le dernier Metz-Lille, c'était en 2017. Est-ce que vous êtes capable de me donner.
Balouli, 3-0.
Est-ce que vous êtes capable de me donner un Messin?
De quoi? Castaigne de Chine. Non, je déconne.
Il jouait à l'époque.
Couchet, Pires.
En 2017.
Jacques Zongo.
T'as dit qui?
Mollet.
Non, Mollet était pas là.
Sassi, le Tunisien, il était pas à Metz.
Non, Sassi non plus. Non.
Bizevach, non?
Oui.
Ah ouais, oui, je me souviens de Bizevach.
Ouais, t'es pas bien sûr qu'il s'en souvienne de Bizevach.
Et vous pouvez m'en donner un deuxième?
Bah oui. Écoute.
Il y a un attaquant qui a brillé dans ton club, Jean-Michel.
Baptistan, est un mon club. Abouba, non, Abouba, il était à Caen.
Non, pas Abouba.
Ah oui, il y a l'autre qui était à Saint-Etienne, là. Coad.
On n'est pas qui?
Oui, Coad, bien joué.
Voilà.
Je pensais à Nolan Roux, moi.
Qui a brillé dans mon club.
Ah bah oui,
Nolan Roux. Oui.
Non, Coad a brillé à Saint-Etienne.
Coad, Roux, il y avait Nguette aussi.
Quand même.
Il y avait Baliou. Niakate, bon voilà.
Ah, franchement, les supporters, ils ont dû se régaler. Hein.
À Quoi, Lille, les roues, là. À Lille de cette époque, il y a deux joueurs qui sont encore dans l'effectif et qui devraient jouer ce soir.
À Lille,
Pépé. Oui.
Pied.
Pépé, puis à Lille.
Pied.
Bamba.
Non, pas Pied, pas Bamba.
André.
Cheka.
Maignan, bien joué, c'est Karim Maignan qui l'a dit.
Ah, oui.
Bien joué, Karim, ça fait 7-3. Et l'autre?
Enfin.
L'autre?
Oui.
Fonte? Bah non.
Beria.
Toujours
Beria,
pas.
Il est toujours dans la
Beria,
Beria,
Beria, bien t'as sûr.
Raison, Beria.
Et Landreau aussi.
Ah oui, bien. À Rojo, on va tout
oui, à Rojo, Jean-Michel, bien joué.
Il était déjà là.
Ah oui, il était déjà là, exactement. Bon, alors Jean-Michel a déjà donné les buteurs, donc je peux pas les faire. Ah, j'ai une question juste.
4, 6, 6, 6, 6, 7, 5.
J'ai une question pour Karim et Nordi.
Ah oui, voilà.
Pas pour vous. Alors, c'est Karim qui va commencer en premier. Karim, il faut que tu me donnes la définition d'un expected goal.
Voilà.
Un expected goal, c'est ça?
Oui.
Je sais pas. But, une occasion qui aurait dû donner un but.
Ah,
ben voilà. C'est très
pas
bon.
Tout à fait
c'est
ça. Est-ce que Nordine, t'as une meilleure définition?
C'est le nom de l'occasion dangereuse devant le but, c'est ça?
Alors on va la donner à Karim parce qu'il est plus proche quand même.
Ça
fait 7-5.
Non mais attends, si tu veux, on donne le début de la réponse et puis l'équipe adverse se donne la fin.
Non, on lui donne à Karim.
7-6.
7-6. Non, 5-5.
7-5. Attention, de qui parle Karim Benzema quand il dit je crois en lui?
Vinicius.
Ah oui, Vinicius, ça allait vite là. Jérôme. Et voilà, victoire de l'équipe Rotten.
Eh oui,
8-5. Et victoire de Nordine.
Et Pépé Balouli. Et Pépé Balouli, parce que j'ai donné les résultats.
Et oui, mais sois malin. Déjà, ne fais pas de passe décisive et ne donne pas les réponses alors que tu les as. Enfin, c'est infernal. Quel manque de stratégie incroyable. On croirait la finale de 76.
Mais je suis un garçon généreux, moi. Je suis à l'antenne comme j'ai été sur le terrain. Généreux. Je suis un garçon généreux.
À partir de quel âge tu réfléchis à voix haute? T'as eu une période comme ça? Parce que maintenant, dès que tu réfléchis,
toujours,
tu dis.
Toujours, j'aime bien réfléchir à voix haute. Okay. C'est bien.
Bon, allez, merci Jean-Michel.
J'en fais profiter tout le monde.
Merci allez, pour l'intégral sport. Salut Chris.
Ouais, ou intégral foot, c'est comme tu veux, Jean-Louis. Ça va les garçons?
Ça va.
T'as réchauffé mon GG parce que t'avais l'air bien gelé l'autre soir.
Écoute, ouais, mais l'essentiel, c'est que j'ai réchauffé tout le monde.
Ah oui, ça c'est vrai.
Moi, j'ai eu froid. Mais moi, voilà.
Exactement. Eh ben, figure-toi que la course au titre reprend. J'imagine que vous en avez un petit peu parlé dans votre émission tout à l'heure. Avec ce soir, donc, le début de la 32e journée. Metz face à Lille.
Eh ben,
Lillois champion de France ou non?
Comment?
Les Lillois champions de France.
Bah, s'ils gagnent ce soir, ça va être difficile d'aller chercher. Mais c'est pas sûr qu'ils gagnent.
Pas facile ce soir, effectivement. La présentation du match, le match en intégralité, c'est tout de suite dans l'intégral foot.
Allez.
Sur RMC.
Bon week-end. Bonne soirée, bon week-end.
Prochain,
à la semaine prochaine.
18h.